Donc on prend la page Samertet, c'est la page 137. Avant de commencer un peu dans les mots, je voudrais faire un petit résumé où on en est, brièvement.
D'accord. Manquer avec les
choses. Toujours. David, tu t'occupes hein, de la boucha, tout ça.
Ah ben non.
C'est monsieur boucha.
Avec le SMS, vous pouvez pas manquer.
Donc on a expliqué dans le chapitre 49, quand on a expliqué longuement, que... Enfin, c'est un processus qu'on a démarré depuis le chapitre 46. On a expliqué le concept de Kemaim Apanim Apanim, Kenlev Adam la Adam, que quand on envoie un sentiment à quelqu'un, obligatoirement il est obligé de nous le renvoyer. Le but, c'est qu'on essaye d'arriver au fait que même si quelque part on ne ressent pas grand chose envers Akadosh Baruch Hu, on ne ressent pas qu'on doit l'aimer, on ne ressent pas qu'on doit le craindre, mais on doit arriver à accomplir les mitzvot, ne serait-ce que par reconnaissance. Alors pourquoi reconnaissance? Pour qui reconnaissance? C'est là qu'on est en train d'une longue explication pour expliquer qu'est-ce qui s'est passé lorsque Kadosh Baruch Hu a créé le monde. On a expliqué longuement que lorsque Kadosh Baruch Hu a créé le monde, donc je ne veux pas rentrer dans les détails, ça a pris plusieurs semaines pour expliquer ça, mais en gros, ce qu'on a expliqué, c'est que lorsque Kadosh Baruch Hu a créé le monde, pour créer le monde, Kadosh Baruch Hu a dû se contracter. On a expliqué longuement tous les détails de la contraction. On a expliqué comment Kadosh Baruch Hu, il y a eu d'abord la rupture, après il y a eu le Tzimtzoum, etc. On a donné tous les détails. Comment Akadosh Baruch Hu s'est contracté, tout ça pourquoi, tout ça pour arriver à l'homme au final. En vérité, on a expliqué que tout le but des malachim, tout le but de ce qui est autour, en vérité, tout ça c'est uniquement pour l'homme. Donc quand on réfléchit à ça, quand l'homme réfléchit au fait que Akadosh Baruch Hu s'est contracté à ce point, il dit quand tout le monde a été servi, David. Quand on réfléchit, tu prends pas? C'est un petit peu... Bon, je continue. Quand on réfléchit au fait que Kadosh Baruch Hu s'est contracté à ce point, donc on dit c'est un minimum que nous, on doit avoir que Maïm Apanim Apanim Kenlev Adam la Adam, que c'est un minimum qu'on a expliqué que quand je souris à quelqu'un par exemple, naturellement il va me sourire. Quand je fais une grimace à quelqu'un, quand j'embête quelqu'un, naturellement il a envie de m'embêter. Donc Kadosh Baruch Hu qui nous a montré tellement de signes d'amour, tellement de signes d'affection, alors qu'il ne doit rien. Il s'est contracté pour nous, il nous donne beaucoup plus qu'aux anges, etc. Donc il est évident qu'on doit avoir un minimum, d'accord, au moins un début de sentiment de reconnaissance envers Akadosh Baruch Hu, de nous aussi nous contracter pour Akadosh Baruch Hu. Et c'est là qu'on est en train dans un sujet qu'on va développer aujourd'hui. Qu'est-ce que ça veut dire se contracter pour Akadosh Baruch Hu? Dashgara Pratit, c'est un lien direct, c'est un rapport direct avec la manière de voir les choses et la manière comment s'est comporté Rabbi Yosef Yitzhak, le rabbi précédent de Lubavitch, dans la Hilula, c'est aujourd'hui.
Ah, voilà.
Comment l'a expliqué Chaim Chaim? Baruch Atah Adonai Eloheinu Melech Haolam, Shehakol Nehiyah Bidvaro. Amen. Je suis à jeun alors. Puis j'ai la tête qui tourne, vous m'en voulez pas.
C'est vrai que tu n'avais pas l'exemple du roi qui vous avait dit le paysan.
Oui, oui, oui.
Tu as jeûné?
Non, à jeun, c'est une expression.
Non, je sais pas. Il faut jeûner là et là.
À jeun depuis 15h.
Je n'ai pas dit que j'ai jeûné. Donc, on sait que, comme je l'ai dit Shabbat au Favoringen, on voit dans la vie du rabbi précédent, la vie du rabbi Yosef Yitzhak, chez chaque rabbi et chaque tzaddik, il y a une particularité. D'accord ? Chaque tzaddik a sa particularité. Il y en a qui vont plus mettre le point sur l'étude de la Torah, il y en a qui vont plus mettre le point sur l'étude, il y en a qui vont plus mettre le point sur l'éducation. On voit que même si, bien entendu, tous les tzaddikim font toutes les misotes, mais quand on s'approfondit, on voit que chaque rav et chaque tzaddik à sa particularité, à son point fort, le point qui le concerne particulièrement. Et ce qu'on a vu particulièrement chez le rabbi précédent, c'est que Rabbi Yosef Yitzhak, on a vu que c'était quelqu'un pour lequel le don de soi était une valeur très importante. Partout où il était. On l'a vu dans sa jeunesse, lorsqu'il était enfant, dans les histoires qu'on a, qui nous racontent comment il apprenait à donner de vie petit, donner de sa personne, pour les autres enfants. On a vu plus tard, lorsque très jeune, déjà, à 17 ans, son père il l'a nommé à la tête de plusieurs institutions, alors qu'il ne voulait pas, il lui préférait continuer à étudier. Et il s'est donné très fortement. Il a pris beaucoup de risques. D'accord, très souvent, il est parti faire des missions qui étaient dangereuses. Par exemple, dans une des missions qu'on nous raconte, on nous dit qu'il y avait un décret à enlever. Il y avait un décret très grave qui était en train de nommer son peuple juif à Pétersbourg. D'accord, donc aujourd'hui on appelle ça Saint-Pétersbourg. Bon. Chez les chassidim, on dit pas Saint-Pétersbourg, on dit Pétersbourg tout court. Et les juifs, à ce moment-là, n'avaient pas le droit d'aller à Pétersbourg. Quand ils n'avaient pas le droit d'aller à Pétersbourg. Et on raconte que, c'est une des histoires, hein, que le rabbi précédent a fait Messirut Nefesh. Il est parti là-bas sans se déguiser, sans rien du tout. Il est parti, il est rentré dans le palais. C'est un miracle hein, quand on entend l'histoire. Il a réussi à trouver la bonne personne, il lui a parlé, il est reparti comme si de rien n'était. À tel point que même son père lui a posé la question, il lui a dit « Mais ça va, pourquoi t'es parti tellement fort ?» Et ça, c'est quelque chose qu'on voit très fortement chez le rabbi précédent. Que quand il croyait dans quelque chose, il y allait fort. Il lâchait pas prise. Messirut nefesh, le don de soi. Le fait de contracter sa personnalité pour Akadosh Baruch Hu, d'oublier sa personne. On l'a vu lorsqu'il était en Russie, on l'a vu lorsqu'ils étaient en Pologne, d'accord, parce que bon, malheureusement avec la Shoah et tout, et les guerres, donc, enfin, comme la majorité des tzadikim de l'époque, ils ont passé beaucoup d'endroits. On l'a vu lorsqu'il était en Eretz Israël, on l'a vu lorsqu'il était aux États-Unis. Chaque endroit, partout, le point qu'on voit qui revenait à chaque fois, c'est qu'il s'adaptait aux besoins de l'endroit, et à chaque fois, il mettait de côté ses intérêts personnels pour, ce qu'on appelle Messirut Nefesh, pour les besoins de la communauté. C'était
son père.
Son père, enfin, si je me rappelle bien, c'est la Russie. Ensuite, il a fait la Russie, les États-Unis. Ensuite, il est revenu en Russie, parce qu'il était parti en Russie pour ramasser de l'argent. Il est revenu en Russie. Ensuite, de la Russie, il est parti à la Pologne. D'accord. De la Pologne, il est parti à la France. Enfin, je sais pas, en passant par où. Et de la France, il est parti aux États-Unis. D'accord. Donc en passant par Marseille, tout ça. Enfin, bon, il a dû passer par toutes les escales qu'il fallait. Des États-Unis, il est reparti en Eretz Israël pour aller pèleriner. Et après, il est revenu aux États-Unis.
Pèleriner, pas pour ça.
Oui, pour pèleriner.
On parle du rabbi, là.
Rabbi précédent.
On parle du rabbi ?
Non.
Non, c'est
son beau-père. Donc, je dis rabbi Yosef Yitzhak. Et la qualité qu'on voit particulièrement chez lui, c'est le fait qu'il... le don de soi. C'était quelque chose de très très fort chez lui. D'ailleurs, c'est une des choses que le rabbi a beaucoup répété pendant l'année du Herzeit, enfin pendant l'année après le départ, et bon, il a répété aussi beaucoup après, mais surtout pendant la première année. Il avait l'habitude de dire qu'il y a un mina que chez les chassidim Chabad, on a l'habitude de ne pas faire de hespèd. Hespèd, c'est l'oraison funèbre. On a l'habitude de ne pas en faire. Pourquoi ? Parce qu'on dit que les bonnes actions de la personne, d'un tzadik, c'est ça son hespèd. Donc, l'habitude qu'on a, c'est de raconter des histoires. Chaque fois, quand il racontait des histoires, il montrait à chaque fois comment, toujours le point qui revenait particulièrement chez le rabbi précédent, c'était le fait qu'il faisait Messirut Nefesh. Alors, quel rapport avec notre cours ? Le rapport est très simple. On a expliqué que Kemaï, Mapanim, Mapanim, Kenlev, Adam, La Adam, que lorsqu'on envoie un sentiment à quelqu'un, naturellement, il est obligé de nous le renvoyer. Et que si Akadosh Baruch Hu, pour nous créer, il a dû se contracter, il a dû faire abstraction de la Kdusha quelque part. Pourquoi ? Parce qu'on a expliqué que la Kdusha, ça veut dire. Qui dit Kdusha dit zéro matérialité. La matérialité, c'est le contraire de la Kdusha. À Kadosh Baruch Hu, pour nous créer, pour nous donner le libre arbitre, il a dû quelque part se contracter pour donner place à la matérialité. Donc à Kadosh Baruch Hu, et on a expliqué longuement dans les cours précédents comment à Kadosh Baruch Hu s'est contracté, la rupture, etc., etc. Donc on dit, quand on réfléchit à tout ça, on va se dire finalement, lorsque Kadosh Baruch Hu me demande de me contracter, moi, et de mettre de côté mes petites envies pour à Kadosh Baruch Hu, c'est pas grand chose par rapport à tout ce que Kadosh Baruch Hu a fait. Mais là, on a poussé un peu plus loin. C'est sur ça que je voudrais m'arrêter aujourd'hui. On a expliqué que quand on parle de se contracter pour un Kadosh Baruch Hu, on ne parle pas seulement de se lever le matin, hein, d'accord, et que j'ai envie de dormir et je veux me lever le matin, d'accord, je veux faire un effort pour un Kadosh Baruch Hu. On parle de quelque chose qui est beaucoup plus fort que ça. Parce que là, n'oubliez pas qu'on parle du Benoni. On parle du Benoni. Le Benoni, c'est un juif qui est Shomer Torah Mitzvot à 100% et qui cherche à savoir dans quoi il doit avancer, comment il doit avancer. D'accord ? C'est quoi ça, Avodat Hashem ? C'est là qu'on a expliqué un point très très fort la semaine dernière. On a expliqué que lorsque Kadosh Baruch Hu nous demande, de faire abstraction de soi, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que Kadosh Baruch Hu nous demande que tout ce qu'on fait, que le point central de notre existence ne doit pas être notre ego. Comme on a expliqué longuement la semaine dernière. On a expliqué que si on réfléchit, on voit que qu'est-ce qui fait avancer les choses dans notre vie, dans la vie d'un homme, dans la vie d'un animal, dans la vie de tout ce qu'on veut, c'est l'ego. Qu'est-ce qui fait qu'un homme se marie ? Qu'est-ce qui fait que je suis content maintenant et que demain je ne suis pas content ? Qu'est-ce qui fait l'homme ? Qu'est-ce qui fait la différence entre hier, aujourd'hui, demain ? C'est l'ego. Hier je me sens pas bien, aujourd'hui je me sens bien. C'est l'ego. C'est pas négatif, on est né comme ça. L'homme naît égoïste. On a expliqué la semaine dernière longuement les exemples avec les enfants, etc. On est égoïste, c'est comme ça. C'est pas forcément un défaut, on est comme ça. Qu'est-ce que Kadosh Baruch Hu attend de nous ? Kadosh Baruch Hu attend de nous à ce que, si, quand on sert à Kadosh Baruch Hu, on ne le sert pas, et de manière générale, tout ce qu'on fait, on ne le fait pas par égoïsme. Par exemple, je vais venir à un cours de Torah pour étudier la Torah. On peut retrouver de l'ego dans ça aussi. Comment peut-on retrouver de l'ego? On avait dit Guy.
Guy répondra que en posant des questions, en se faisant...
En se faisant un kiff, en comprenant. Voilà. Non, pas seulement ça, en se faisant un kiff.
Ça peut être une raison.
D'accord. Ça peut être une raison. Et c'est certainement une raison. La preuve, c'est qu'un cours qui n'est pas intéressant, on arrête de venir.
C'est une attaque directe.
Ah. J'arrête de boire.
La preuve, c'est quoi, Chaïm?
C'est pas de l'ego, ça.
Ah, merci. On peut trouver, l'avocat. On peut trouver de l'ego dans tout ça.
La preuve, c'est qu'un cours qui n'est pas intéressant, on arrête de venir. Enfin, on a envie d'arrêter de venir. Pourquoi on arrête de venir, hein? Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que mon ego me dit, le cours ne m'intéresse plus à moi. Donc, puisqu'il ne m'intéresse plus, j'arrête de venir. Ça veut dire que c'est autour de l'ego. Je ne suis pas en train de réfléchir, qu'est-ce que Kadosh Baruch Hu attend de moi? Quelle est ma mission sur Terre, ici-bas? Est-ce que Kadosh Baruch Hu attend de moi que je vienne au cours? Est-ce que Kadosh Baruch Hu attend de moi que je fasse cette mitzvah? Ou est-ce que Kadosh Baruch Hu n'attend pas ça de moi? Si on réfléchit, on voit que la majorité, d'accord, dans la majorité des cas, la réflexion qu'on va avoir, c'est qu'est-ce que j'ai envie de faire? Est-ce que j'ai envie? Est-ce que je la sens ou est-ce que je la sens pas?
Qu'est-ce que ça m'apporte?
D'accord, qu'est-ce que ça m'apporte? Qu'est-ce que je gagne? Pourquoi je me demande de faire ça? Et c'est là que vient nous dire l'Admor HaZaken qu'en vérité, le message principal du judaïsme, c'est quoi, hein? C'est de savoir que de la même manière que Kadosh Baruch Hu pour nous créer a fait abstraction de soi, nous aussi on doit s'habituer constamment à faire abstraction de nous-mêmes. Et le calcul qu'on doit avoir à chaque fois avant de faire quelque chose, c'est pas est-ce que j'ai envie ou j'ai pas envie.
Qu'est-ce qu'il attend de
moi ? C'est qu'est-ce que Dieu attend de moi ? Est-ce que pour faire ma mission, je dois faire ça ou je dois pas le faire ? C'est un calcul qui est très difficile. D'accord ? C'est un calcul qui est très difficile. Ah, peut-être. Au Bazé Yuvan, voilà.
Quel est le lien alors avec ton histoire du roi et de...
C'est très simple, c'est qu'on a dit que c'est que le roi qui reçoit le serviteur, on a dit que comme même si le serviteur, par définition, même si donc c'est enfin ce clochard, comme on avait dit, d'accord, bon, pour ceux qui n'étaient pas là, je donne l'exemple. Alors, ça, brièvement, c'est quoi l'exemple? On avait dit que il y a un roi qui va venir, qui va sortir dans la rue, qui va voir un clochard dans la rue, un clochard qui souffre tellement dans sa vie qu'il est insensible. Avec une personne défavorisée, et le roi il va prendre cette personne-là, il va le faire entrer dans son palais. Et il va lui donner du kavod, il va lui donner du kavod encore plus qu'il donne à ses ministres. Il va le faire entrer dans son palais, il va le faire entrer dans des endroits que même les plus grands ministres ne rentrent pas. On a expliqué qu'à ce moment-là, même si cette personne-là, qui par nature est une personne qui est très dure de caractère, qui n'a rien à faire, d'accord, il se moque de tout, c'est sûr qu'à un certain point il va craquer. Parce que le roi lui a tellement montré d'amour qu'il est obligé de renvoyer lui aussi de l'amour. Donc on a expliqué que normalement c'est la même chose avec Kadosh Baruch Hu. Si on réfléchit au fait que Kadosh Baruch Hu a tellement fait abstraction de soi pour nous, si on réfléchit à ça, hein, obligatoirement on va se dire mais finalement moi quand je fais abstraction de moi c'est rien du tout par rapport à ce que Kadosh Baruch Hu a fait. C'est comme le paysan, c'est comme ce clochard là, il va se dire mais le petit sentiment que je vais avoir de reconnaissance envers le roi c'est rien par rapport à tous les efforts que le roi a fait. Alors on va reprendre les mots, on a dit, on s'est arrêté à Ubaze Yuvan Tuftam Vedat. Donc vous prenez page Samertet, deux lignes avant la fin de la page.
Il y a un rapport entre les bras du schéma et
justement... Oui, voilà, voilà. Donc je reprends les quelques lignes pour parler de l'ordre du schéma. Razakouvan. Bon, j'espère que ta mémoire remonte à plus que 7 jours. Chaïm, oui. Chaïm.
Vous pouvez y aller, hein. On ne marque pas avec un verre de gros pas, mais...
Je fais ça rapidement. Servez, Yakov.
Quoi, il y a une...
Vous savez, on dit que plus une personne a des morines, plus une personne est intelligente, et plus il faut de l'alcool pour affecter
son intelligence.
D'accord, mais il est intelligent, mais
ce n'est
pas de l'alcool.
Avec ça, on va comprendre brièvement. Avec ça, on va comprendre brièvement. Et takan at rachamim, ce que les rachamim ont instauré, chez tiknu brachot kriat shema, le fait que les rachamim ont instauré les bénédictions du shema, shtaim, le fanea, donc ils ont instauré, par exemple le matin, deux brachot avant, et deux brachot après. Le matin, c'est la bracha de yotzer or vorechosher, et la seconde bracha, c'est ahavat olam, d'accord, bauchata hashem, abocher bamo israel be'ava, donc comme on voit dans le ciseau, il y a deux brachot. Bon. Dilir ora, qu'a priori, donc là je vais un peu vite, c'est calculé, parce que ça on l'a déjà fait la semaine dernière. Dilir ora, a priori, en lem shaykhut klal mikrat shema kemo shekatvu arashba ushar poskim, qu'a priori ces deux bénédictions n'ont rien à voir avec le shema comme ce que le Rashba a expliqué. Pourquoi? Quand le shema il nous parle de la mitzvah d'aimer à Kadosh Baruch Hu, ces deux brachot là n'ont rien à voir. La bracha de Yotzer Or va nous parler des anges, de ce qui se passe chez les anges, comment les anges glorifient à Kadosh Baruch Hu, et la deuxième bracha de Ahavat Olam va nous parler du fait que Kadosh Baruch Hu nous a choisi et que sur toute la ligne on retrace l'histoire et Kadosh Baruch Hu n'arrête pas de nous gâter. Ok, c'est très bien beau, c'est des brachot qui sont très belles. Mais c'est des brachot, a priori, qui n'ont rien à voir avec le Kriyat Shema. Comme la preuve qu'on a amenée la semaine dernière, que si on fait Arvit en plein jour, d'accord, bien que le Shema, on devra le refaire à la nuit, les brachot du Shema, on les refait. Les brachot du Shema, pardon, on les fait en plein jour. Par exemple, d'accord, si aujourd'hui, je ne sais pas à quelle heure c'est la nuit, à quelle heure aujourd'hui, c'est la nuit, c'est à 6h. Quelqu'un, il fait Mariv à 5h de l'après-midi. Il fait Shema Israël, il fait les brachot avant, les brachot après. Ah, mais pourtant, il n'est pas quitté du Shema. Il devra refaire le Shema à la nuit tombée. Alors pourquoi il fait les brachot du Shema? De là, le Rashba nous dit, c'est une preuve que les brachot du Shema, en vérité, ne sont pas, c'est pas réellement les brachot du Shema. C'est des brachot qui sont des brachot à part entière, sauf qu'elles ont été placées autour du Shema. Donc la question qu'on se pose...
Pourquoi? Sauf que c'est pas le cas pour...
Pour pareil? Non. Si. Tacharit, c'est la même chose. Si une personne a déjà lu le Shema le matin, avant la tfila, hein, elle s'est déjà rendu quitte du Shema. Hein. Par exemple, quand il voulait manger, avant de manger le matin, vous savez que le matin, avant de manger, si vous voulez manger avant la tfila, comme l'Admour Azaken, il disait souvent, il disait que dans nos générations qui sont faibles, mieux vaut, on l'a vu dans les mêmes récemment, mieux vaut manger pour prier que prier pour manger. Il faut faire le Shema avant. Parce que sans le Shema, ça assure de manger.
Et c'est ça qui nous rend quitte.
D'accord ? Donc, on est quitte du Shema. Et pourtant, dès qu'on arrive au Shema, donc dans le cadre de la prière, on refait les brachot. Donc de là, c'est une preuve qu'en vérité, les brachot du Shema sont liés au Shema, mais ce n'est pas la bracha du Shema. Ça veut dire, la preuve, c'est qu'on ne dit pas Baruch Ata Hashem, d'accord, celui qui nous a donné l'ordre de faire le Shema. C'est des brachot qui ont été cadrés autour du Shema. Mais là, ma karotam birchot kriat shema, et là, ma tiknota lefana davka. Donc la question qu'on se pose, et vous allez voir que c'est un lien direct avec notre cours, pourquoi on les appelle les brachot du kriat shema, et pourquoi on les instaurait avant le kriat shema, pourquoi pas après, pourquoi juste avant? Et là, mishum, seulement la raison en est, chez Ikar kriat shema, quel rapport avec le kriat shema, puisque l'essentiel du kriat shema, le but du kriat shema, les kayem, bechol levavra bishne yetirera. C'est quoi le Kriyat Shema? Le point principal du Kriyat Shema. Le point principal du Kriyat Shema, je trouve, dans le premier paragraphe du Kriyat Shema. Ouais. C'est pour ça que celui qui n'a pas le temps de lire tout le schéma, quel paragraphe il va lire? Le premier. D'accord? Parce que dans le premier paragraphe, c'est là que se trouve l'essence du schéma. Et qu'est-ce qu'on dit dans ce premier paragraphe? Dans ce premier paragraphe, on dit Ve'afta et Hashem Elokecha, tu aimeras Hashem, Bechol Levavra. De tout ton cœur. Levavra en hébreu, normalement, pour dire tout ton cœur en hébreu, on dit Bechol Libra. Lève en hébreu, il y a un seul bête, il n'y a pas de deux bêtes. Pourquoi on dit Bechol Levavra? Pourquoi avec deux bêtes? Les Chachamim nous disent que de là on apprend, c'est Bishne Yetzirecha. Qu'il faut servir à Kadosh Baruch Hu avec son Yetzer Tov et son Yetzer Hara. Ça veut dire quoi servir à Kadosh Baruch Hu avec son Yetzer Tov et son Yetzer Hara? Je comprends pas ce que ça veut dire, je comprends pas. Mon Yetzer Hara, il veut faire des bêtises. Mon Yetzer Tov, il veut faire des mitzvot. Ça veut dire quoi servir à Kadosh Baruch Hu avec mon Yetzer Hara? Ça veut rien dire. C'est quoi cette histoire? Daïnou, ça veut dire la mode négate kol monia mais avat Hashem. Ça veut dire que quel est le but, quel est le travail d'un juif dans le monde, quelle est l'essence du Kriyat Shema? C'est qu'un juif, il doit savoir, un juif doit premièrement aspirer à faire constamment des mitzvot, premièrement. Deuxièmement, il doit être prêt à combattre son Yetzer Hara si besoin. C'est ça ce que ça veut dire quand on dit qu'il faut être prêt à servir à Kadosh Baruch Hu avec le Yetzer Tov et le Yetzer Hara. Le Yetzer Tov, c'est celui qui a envie de faire les mitzvot. Le Yetzer Hara, c'est celui qu'on va devoir combattre et être prêt à le combattre s'il ne nous laisse pas faire les mitzvot. Et alors? Ou les Vavra, quand on dit tu aimeras Hashem de tout ton cœur, c'est quoi les Vavra, nous dit l'Admor Hazaken? En Aïcha Viladea. C'est la femme et les enfants. Shel Vavo Shel Adam Kshura Baem Betivo. Que le cœur d'un homme est lié naturellement à sa femme et à ses enfants. Que Moshe Amour Hazal, comme les Chachamim m'ont dit, Al Pasuk ou Amar Vaye ou Tiva Vaya Amod et Lubanim. Sur le verset qui dit ou Amar Vaye ou Tiva Vaya Amod, qu'on lit tous les matins, ils disent que de qui on parle ici quand on parle donc de cette bracha, d'accord, de qui on parle de ça? Il nous dit, on parle de qui ou Amar Vaye ou Tiva Vaya Amod, on parle de la femme et des enfants. Venav Shecha Omo Decha Kemashmao Chaye Mzone Lafkir Akol Bishvi Lavat Hashem. Voilà, on s'arrête ici la semaine dernière. Je partais un peu vite. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quelle est l'essence du schéma? Quand on dit dans le schéma Israël, quel est l'essence de la première paragraphe du schéma? Quel est le message qu'on est en train de nous faire passer? On nous dit, Ve'afta et Hashem Elokecha, tu devras aimer Hashem ton Dieu, Bechol Levavcha, de tout ton cœur. Ça veut dire quoi de tout ton cœur? Ça veut dire en sacrifiant tout ce que tu aimes. En sacrifiant ton amour propre, en sacrifiant tout ce que tu aimes. C'est ce qu'il nous dit ici. Bechol Levavcha, Bechol Nafshecha, Bechol Meodecha. De tout ton cœur, ça veut dire en sacrifiant tout ce que tu aimes. Qu'est-ce qu'un homme aime? Un homme aime sa femme et ses enfants. Et quand tu vas demander à un autre, tu vas dire pourquoi tu te maries? Il va dire parce que j'aime. Donc encore une fois, c'est lié à l'ego. Une personne ne va pas te dire je me marie parce que c'est la mission de la Kadosh Baruch Hu de se marier et d'avoir des enfants.
Si, si.
D'accord. T'as eu la même réaction, je m'en viens. On fait pas des cours, on fait pas des cours de Shalom Bayit.
Non, mais on peut dire que c'est possible.
Bien sûr que c'est possible. Qu'est-ce qui te dit le Ve'avta? Donc on peut dire sur ça tu as accompli le Ve'avta Hashem Elokecha. Qu'est-ce qui te dit Ve'avta Hashem? Oui.
Il a compris.
Sûr. Okay. D'accord. Donc, qu'est-ce qui te dit le pasouk? Le pasouk qui te dit Ve'avta Hashem Elokecha. Tu devras aimer Hashem ton Dieu. Ça veut dire quoi aimer? Aimer, ça veut dire sacrifier. Aimer, c'est pas lié à un ego. Dans le monde d'aujourd'hui, les gens ils vous disent quand j'aime quelque chose, ça veut dire que je suis conscient de ce que ça peut m'apporter, donc je vais l'aimer. Le jour où ça m'intéresse plus, je le jette. Ça veut dire que l'amour est lié à l'ego. Dans la Torah, c'est exactement le contraire. Qui dit aimer, dit sacrifier. C'est pour ça, d'accord, que dans la Torah, on nous dit que lorsqu'un homme va se marier avec une femme, d'accord, on dit que c'est comme si qu'il va devenir esclave à sa femme. Ça, c'est écrit dans la Gemara. C'est pour ça que quand vous lisez une fois la traduction de la Ketouva, d'accord, vous verrez que on est précisément en train de dire je m'engage à donner, et la femme, elle s'engage à rien du tout. D'accord, la femme, elle s'engage à rien du tout.
Elle dépense de l'argent, lui.
Non, elle s'engage à rien du tout. La femme ne s'engage à rien du tout. La femme ne s'engage même pas à faire des repas. Hein? C'est le mari qui a le droit de divorcer la femme si elle ne lui fait pas de repas.
Raison, ça.
Une seconde, mais la femme ne s'engage en rien. Quand on voit, ça c'est vraiment, on voit comment dans la Torah, c'est pile le contraire de chez les goyim. Exactement le contraire. Chez les goyim, on nous dit que les femmes sont là pour les hommes. D'accord, pour faire plaisir aux hommes, pour être autour des hommes, pour attirer les hommes. Ça c'est ce qu'on nous dit chez les goyim. Dans la Torah, on nous dit exactement le contraire. D'accord. On nous dit, Darko shel ish le chazer acharisha, c'est l'homme qui doit chercher la femme, et c'est l'homme qui doit combler la femme, et c'est l'homme qui doit montrer à la femme qu'il est là pour elle. Exactement le contraire. Chez les goyim, on te dit, la femme est là pour le mari. Chez nous, on ne dit pas du tout. C'est le mari qui est là pour la femme. C'est le mari qui est là pour la femme. C'est ça, Avat Hashem. C'est quoi, Avat Hashem? Avat Hashem, qu'est-ce qu'on nous dit? Ve'avtet Hashem Elokecha. On te dit, Ve'avtet Hashem Elokecha. Tu devras aimer Hashem. Tu devras aimer Akadosh Baruch Hu. Qu'est-ce que ça veut dire aimer? Aimer, ça veut dire sacrifier son ego, faire abstraction de soi. Qu'est-ce qu'on entend par sacrifier son ego? On n'entend pas seulement se lever le matin pour aller à la prière. Ça, c'est entre Dieu et toi. On entend sacrifier tout ce qu'une personne peut avoir. Même le lien, d'accord, même le fait qu'une personne a ses petits kiffs, sa femme, ses enfants, son argent, d'accord, sa vie, sacrifie tout ça pour un Kadosh Baruch Hu. Comme on a dit, la raison principale pour laquelle je fais le Torah et Mitzvot, c'est quoi? C'est pas pour moi, c'est pour un Kadosh Baruch Hu. Là, il y a la question qu'on a posée la semaine dernière, on a dit, mais c'est bien beau de le dire tout ça, mais ça nous paraît impensable. Comment c'est possible? Déjà, réussir à faire le Torah et Mitzvot, c'est pas facile. Maintenant, tu me dis, non seulement qu'il faut faire le Torah et Mitzvot, mais quand tu fais Torah et Mitzvot, tu ne dois pas le faire pour ton kit personnel. D'accord? Tu dois le faire pour un Kadosh Baruch Hu. Attends, c'est déjà pas mal. Baruch Hashem, une femme et des enfants, on essaie de s'occuper d'eux, etc. Ok, même si des fois, il y a un peu d'ego qui est mélangé, mais on essaie de bien faire. Il me dit non, c'est bien, c'est pas suffisant. Il me dit, s'il y a de l'égoïsme, c'est pas ça que Kadosh Baruch Hu attend. Puisque Kadosh Baruch Hu a fait abstraction de soi, il attend de nous que nous aussi, nous devons faire abstraction de nous-mêmes, comme ce qu'on a expliqué dans la vie du rabbi précédent. Donc il y a la grande question qu'il pose Admor HaZaken, avec laquelle on va expliquer les deux brachot du schéma. Ve'er yavo Adam achumri le midazo. C'est trop dur ce qu'on nous demande dans le schéma. Quand on réfléchit à ce qu'on nous demande dans le schéma, si on lit bien la traduction du schéma, on dit mais c'est pas possible, c'est impossible. Tu me demandes de sacrifier tout ce que j'ai. Tu me demandes de sacrifier mon argent, tu me demandes de sacrifier. Ça veut dire comme ça. C'est pas seulement que tu me demandes de faire les mitzvot. Il me dit fais les mitzvot, mais quand tu es à ton travail, bah, c'est un moment libre. Non. Tu me dis, ça veut dire qu'un juif, il n'a jamais de temps libre. C'est ce qu'on est en train de me dire. Tu es en train de me dire qu'un juif, il n'a jamais de temps libre. C'est pas que le matin, il va à la synagogue, le soir, il va à la synagogue, au milieu de la journée, il essaie d'étudier un petit peu, et entre-temps, c'est du temps libre. Fais ce qu'il veut. Quartier libre, comme on disait quand on était en colonie. Quartier libre, tu fais ce que tu veux. On a l'impression voilà. C'est bon. Maintenant, je me donne un Kadosh Baruch Hu, après je sors du cours, maintenant quartier libre. D'accord? Ça ne veut pas dire que je vais faire des avérotes, ça veut dire que maintenant, je vais laisser mon esprit s'évader, je vais faire ce que je veux.
Et ben non.
Qu'est-ce qu'on te dit? On te dit non. On te dit qu'un juif doit s'habituer au fait qu'à aucun moment de sa vie, il est libre. À aucun moment de sa vie, il est libre. D'accord ? C'est comme on nous dit dans le Kriyat Shema, dans le troisième paragraphe du Kriyat Shema, on dit clairement, on dit que Ani Hashem Elokechem Asher Otseti Etchem Eretz Mitzrayim. Et là-bas, on dit clairement, d'accord, donc là-bas, dans le Mefarshim, mais on voit dans la troisième paracha aussi du schéma, on dit clairement qu'Akadosh Baruch Hu, il nous dit que s'il nous a fait sortir d'Égypte, donc si on a quitté le statut d'esclave aux Égyptiens, c'est pour devenir les esclaves d'Akadosh Baruch Hu. Ça veut dire qu'un juif n'a jamais, d'accord, de temps mort, un juif n'est jamais libre. C'est ça ce qu'on nous dit dans le schéma. On dit, Ve'ahavta et Hashem Elokecha, ce que tu dois aimer, ce qui doit te faire avancer dans ta vie, c'est pas tes petits kiffs. Est-ce que j'aime ça ou est-ce que j'aime pas ça? Non. Ve'avtet Hashem Elokecha, tu dois tout sacrifier pour Akadosh Baruch Hu. Et la question que tu dois te poser à chaque fois, c'est est-ce que Dieu est derrière ou Dieu n'est pas derrière? Je dis, mais attends. La question qu'il pose de Morozakin, il dit, mais Ve'ech Yavo. Je suis allé un peu vite, mais on va reprendre dans les mots.
Attends, excuse-moi, est-ce qu'il y a une contradiction entre dire d'une part...
Page 247.
Quand 240. Tu dois être esclave à Dieu.
Oui.
Et d'autre part, quand tu dois être esclave de ta femme.
Non, il faut être esclave de... C'est... Comme tu es esclave à Dieu, Dieu te demande d'être esclave de ta femme.
Oui, c'est ça que vous comprenez.
Bien sûr. Toute la vie d'un juif est gérée par Akadosh Baruch Hu, par la Torah. C'est pour ça qu'il y a des gens qui ont du mal à comprendre. Comment ça se fait que quand on a, voilà, par exemple, dans Mishnah Berurah, on a appris il n'y a pas longtemps les lois comment doivent se comporter aux toilettes.
Ouais.
Est-ce que vous avez déjà vu une autre religion où on t'explique comment tu dois te comporter aux toilettes? Non.
Non.
D'accord.
Non, non, mais c'est une copie. D'accord.
Pourquoi tu parles de ce que je fais quand je suis aux toilettes? Pourquoi? Parce que dans les autres religions, d'accord, dans les autres religions, le but de la religion, c'est que l'homme s'approche, d'accord, c'est que l'homme fasse un effort vers quelque chose. Mais il a toujours des temps morts. C'est-à-dire, c'est moi qui fais un effort vers quelque chose. Dans le judaïsme, on fait tout pour te dire que la vie d'un juif est toujours calquée, est toujours centrée autour de la Torah. Même quand il va aux toilettes, c'est quelque chose qui marque des gens. Je me rappelle quand on a fait le cours, il y a des gens qui étaient un petit peu... choqué, tu m'attends, quoi, mais même quand on va aux toilettes, tu m'expliques.
On n'est pas libre.
On n'est pas libre. Sois tranquille, je suis aux toilettes maintenant. Il n'y a pas de Torah ici. Non. Même là, on retrouve Akadosh Baruch Hu. D'accord. Si Akadosh Baruch Hu, il est présent même aux toilettes, à plus forte raison qu'il est présent dans notre Shalom Bayit. Plus forte raison. Et plus forte raison que l'élément moteur qui doit nous faire avancer dans notre vie, surtout dans le Shalom Bayit, parce qu'il a amené la femme et les enfants, c'est pas qu'est-ce que j'aime ou ce que j'aime pas. C'est quelle est ma mission. Ah, ça me prend la tête. Ah, ça me prend la tête ce jour-ci de m'occuper des enfants. Ah, ça me prend la tête d'écouter ma femme, je suis fatigué du travail. C'est pas ça la question que je dois te poser. La question que je dois te poser, c'est pas est-ce que ça me prend la tête ou ça me prend pas la tête. La question que je dois me poser, c'est qu'est-ce que Kadosh Baruch Hu attend de moi à ce moment-là. Maintenant, je ne comprends pas, c'est comment on peut arriver à ce niveau-là. C'est impossible. Alors, à l'époque de la Gemara, enfin, à l'époque, par exemple, du Beit HaMikdash, ils lisaient directement le schéma, sans introduction, sans rien du tout. Directement le schéma. C'est-à-dire qu'à cette époque-là, ils étaient capables d'entrer comme ça. Ils ouvraient le schéma direct dans le coup. On donne tout pour un Kadosh Baruch Hu. D'accord ? Ils étaient capables. Ils avaient cette force de caractère d'être capables de décider de tout donner pour un Kadosh Baruch Hu sans devoir faire appel à la Tfila et au Piyutim, etc. Nous, maintenant, pourquoi on va lire les Debrachot avant le Kriyat Shema ? Comment est-ce qu'on va expliquer longuement maintenant ? Pourquoi on va aller le Psuké des Imra ? Comment on va expliquer les détails ? Pourquoi on va faire tout ça ? C'est pour essayer de se mettre en condition et d'essayer de comprendre comment c'est possible d'arriver à ce niveau-là. Comment c'est possible de faire abstraction de soi de la même manière que Dieu a fait abstraction de lui-même. C'est pas possible a priori. Tu nous demandes quelque chose d'impossible. Ça fait partie de l'essence même de l'homme, des animaux même, de tout ce qui est vivant. L'ego, ça fait partie de l'essence même de tout ce qui est vivant. Comment tu me demandes de faire abstraction de mon ego? C'est impossible.
C'est ça que quand on se marie,
oui.
À l'époque,
oui.
Il ne faisait pas le schéma Israël. Parce que s'il se mettait dans les conditions du schéma Israël,
uh-huh.
Il ne pouvait pas s'imposer, il pouvait pas imposer le corps, laisser son corps sous la vie.
Peut-être, on peut imposer ça, ouais. Bon, le pchat, c'est une autre raison.
Okay.
Pourquoi il ne faisait pas Kriyat Shema? Parce qu'on dit parce que le Kriyat Shema, on peut le faire que si on a la tête tranquille, concentré. Là, il n'était pas concentré parce que...
Il allait.
Parce que non, parce qu'il est pas
sur le chemin.
Non, pas du tout, parce qu'il n'est pas sûr que sa femme est vierge.
Ah, c'était pour ça.
Ouais.
C'est sûr.
Pour ça. Ça, c'est écrit. On l'a appris dans la Mishnah Brachot.
Oui, c'est vrai.
Il dit... Alors. Bon, maintenant, voilà, le pshat. Maintenant, après, on peut toujours... Er yavo adam arumri le midazo. Comment l'homme qui est matérialiste peut arriver à cette midala? A priori, c'est impossible. C'est impossible d'arriver à ça. D'accord. On raconte une histoire avec le rabbi précédent. Le rabbi raconte qu'une fois il est rentré dans la chambre du rabbi précédent, il a toqué à la porte, il est rentré, il a vu que le rabbi précédent était en train de pleurer. Il a demandé, il a dit, il appelait rabbi, il appelait pas beau-père, il appelait rabbi, tellement il le respectait. Il a dit, rabbi, pourquoi vous pleurez? Il a répondu, il a dit, je vais t'expliquer pourquoi je pleure. je pleure parce que je viens d'entendre que quelqu'un qui me tenait très fortement à cœur, quelqu'un que je connaissais bien, a eu un malheur, Dieu préserve. Et j'ai ressenti que la peine que j'éprouvais à ce moment-là était plus forte que si on m'avait raconté la même histoire sur une autre personne que je ne connais pas spécialement. Ça m'a fait de la peine. Pas seulement ça lui a fait de la peine, il en était mal pendant plusieurs jours. Il était mal pendant plusieurs jours. Ça veut dire que, pas seulement ça, ça veut dire que ça le dérangeait. Comment ça se fait ? Regardez, jusqu'à où il se travaillait. C'est-à-dire, c'est pas qu'il aidait pas les autres, il aidait tout le monde. Mais ce qui le dérangeait, c'est comment ça se fait que je me suis senti plus concerné quand c'est quelqu'un que je connaissais, d'accord, quand c'est quelqu'un que je connais pas. Pourquoi ça le dérangeait ? Parce que le Baal Shem Tov, il disait toujours, une des grandes phrases du Baal Shem Tov, le Baal Shem Tov disait que Ahavat Israël, c'est aimer un juif qu'on n'a jamais vu, de la même manière qu'un juif qu'on côtoie tous les jours. Ça veut dire que là, clairement, dans cette histoire, on voit clairement hein, l'amida du rabbi précédent. Comment il se travaillait. Que pour lui, abstraction totale de soi. Et même un sentiment qui est logique. C'est normal, qu'est-ce que tu me veux ? Quelqu'un que je connais bien. C'est normal que quand j'apprends quelque chose lui est arrivé, ça me fait plus de peine qu'un autre. On a presque envie de se moquer. Je dis, mais attends, mais c'est normal, c'est évident. Ça serait pas normal si c'est pas comme ça. Non, ça le dérange. Pourquoi ça le dérange ? Abstraction de soi. Tellement il fait abstraction de soi qu'il se dit, qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu attend de moi à ce moment-là ? Akadosh Baruch Hu attend de moi à ce moment-là que j'ai une Ahavat Israël égale pour tous les juifs. Donc ça me dérange. Donc il en a pleuré. Et s'il en a pleuré, certainement qu'il a arrangé cette petite bida qui lui manquait. Ben oui. Enfin, plusieurs jours il n'en était pas bien, c'est certainement qu'il a arrangé ça.
Surtout si le juif en question, tu as eu l'embrouille avec lui ou ça s'est
surtout, passé. C'est encore pire.
C'est ça la difficulté, d'accord, c'est pas tellement si les personnes.
Donc il nous dit la demande Zaken de Er Yavo, oui.
Parce que la limite, ça paraît presque injuste. Il y a un conflit uh-huh. entre l'amour et la justice.
Bien sûr, 100%, tu as raison. Un grand conflit. Comment tu veux que je l'aime ?
C'est ça, c'est pas juste.
Er Yavo Adamachum, Ver Yavo Adamachum, Rilimidazo. Comment l'homme peut arriver à cette midala, c'est impossible a priori. On est matérialiste et tout est basé sur l'ego. Les cars, d'autri, la birkat, etc. Oh. C'est pour ça que les chachamim ont instauré. C'est pour ça que les chachamim ont instauré d'abord, avant de faire le kriyat shema dans lequel on nous explique longuement qu'une personne doit faire abstraction de son ego, puisque les chachamim savent qu'on va se poser la question, on va se dire comment on peut arriver à cette midala. C'est pour ça que les chachamim ont instauré les deux brachot avant. Qu'est-ce qu'on dit dans ces deux brachot ? On va commencer par la bracha de Yotzer Or. La bracha de Yotzer Or, c'est la bracha la plus longue. Le Sham Nehemar. Qu'est-ce qu'on lit dans cette bracha ? Dans cette bracha qu'on va répéter tous les jours. Tous les jours. D'accord ? C'est pas qu'on va la répéter une fois par mois, comme le Rosh Chodesh. Tous les jours. Tous les matins, on va répéter chaque jour cette bracha de Yotzer Or. Qu'est-ce qu'on va dire dans cette bracha de Yotzer Or ? D'accord ? En passant... On voit ici, encore une fois, une autre chose. On voit ici que pourquoi on nous demande de répéter tous les jours la même chose, même si des fois ça peut être presque saoulant. D'accord ? Pourquoi tu me demandes de répéter tous les jours la même chose ? Dis-moi de le répéter une fois par mois, un petit rappel une fois par mois. Parce que Akadosh Baruch Hu, en vérité, Akadosh Baruch Hu nous dit que c'est une des choses qui sont liées à la nature de l'homme. Une des choses qui sont liées à la nature de l'homme, c'est que, comme on dit, il y a un proverbe qui dit « Ahergel oseh shelo », que l'homme s'habitue à tout. Et que même si quelque chose va nous impressionner énormément, mais quand, une fois que tu l'entends une fois, deux fois, après, ça ne te fait plus rien. On l'a vu par exemple chez le Béni Israël dans le désert. Le Béni Israël dans le désert. Ils avaient la manne, ils avaient Kadosh Baruch Hu qui se révélait à eux, ils avaient la tige de Drac Moshe Rabbeinu. Et pourtant on a vu qu'ils étaient capables de se plaindre sur des bêtises, ils voulaient de la viande. Comment c'est possible ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Ils étaient bêtes ? Non, ils n'étaient pas bêtes. On nous dit que c'est la génération la plus intelligente que le peuple juif a connue. Dordéa, exactement. Zach.
Zach, pour
Alors pourquoi les Bnei Israël étaient comme ça à poser des questions qui nous paraissent complètement insensées ? Parce qu'ils sont habitués. Et quand on s'habitue à quelque chose, même si au début c'est nous on est ébloui, d'accord ? Mais on s'habitue.
Ouais.
D'accord ? On s'habitue. Comme chez les Chassidim, il y a un proverbe qui dit que autour de la mer, c'est sec. C'est un proverbe, d'accord ? C'est un proverbe en yiddish qui dit Arum Damia Mistrukun pour dire que quand on s'habitue beaucoup à la Kdusha, quand on est beaucoup à proximité d'un tzadik, après un certain temps, ça nous dérange plus. Ça nous touche plus. C'est pour ça que tous les jours, il faut se rappeler, tous les matins, on va se rappeler la bracha de Yetzaror. Qu'est-ce qu'on va dire dans cette bracha de Yetzaror ? Tous les matins. Dans cette bracha de Yetzaror, on va répéter, donc, Venishne Barichut, on va répéter longuement, Inyan Veseder Malachim. On va expliquer longuement le service de Malachim, Aomdim Birum Olam. Les Malachim qui se trouvent dans les hauteurs du monde. Léodi a Gdoulato chez l'Akadosh Baruch Hu, pour nous montrer la grandeur d'Akadosh Baruch Hu. Comment on nous montre la grandeur d'Akadosh Baruch Hu? Alors on va décortiquer un peu plus. Qu'est-ce qu'on dit dans ces fameuses brachot? Dans ces brachot là-bas, on va dire Er Shekulam, on va nous raconter comment tous ces anges-là, tous ces anges, Betelim le Roid Barer, tous ces anges sont constamment annulés, je vais expliquer ce que ça veut dire, face à Akadosh Baruch Hu. Ou Mashmiim Beira. Ils sont en train de constamment donc de dire par crainte, Veomrim, Beira, et ils disent Kadosh. Kadosh, Kadosh, Kadosh. Kadosh en hébreu, ça veut dire quoi hein?
Saint, séparé.
Ça veut dire séparé. Kelomar, ça veut dire.
Moudal.
Sheu Moudal Mehen, Ve Nomit Labesh Bahen, et la Biprinat Giloui. C'est Biprinat Giloui. Ça veut dire que la Kadosh Baruch Hu ne se dévoile pas envers eux. Vous savez, une fois le rabbi a expliqué dans un Mahamar, il a dit que c'est quoi la sensation qu'un ange a? C'est comme quelqu'un qui va faire une course effrénée pour atteindre quelque chose, et juste avant qu'il atteigne la chose, on lui dit non, c'est pas ça, c'est encore plus fort. Après il recourt, juste avant qu'il atteigne, non, il dit, ah, c'est pas ça, c'est autre chose. Je sais pas comment ils arrivent à tenir. S'ils avaient un Yitzhara comme nous, si ça arrive à nous, jamais on n'aurait pu tenir. Ça veut dire que le malach, il a constamment la sensation qu'Akadosh Baruch Hu est séparé de lui. Alors il dit, bon, alors on va monter, il monte, et pac, c'est encore plus loin, et encore plus loin, et encore plus loin. C'est pour ça que... En hébreu, même en yiddish, d'accord. On dit que quand on veut parler de Akadosh Baruch Hu, on parle de celui qui est au-dessus, celui qui est en haut. Après, on dit celui qui est en haut. Pourtant, on sait très bien, on dit toujours que Akadosh Baruch Hu est omniprésent. Donc s'il est omniprésent, pourquoi tu me dis celui qui est en haut? C'est expliqué que pourquoi on dit celui qui est en haut, c'est pour nous dire que le plus haut que tu atteigneras, il sera toujours encore plus haut et encore plus haut. Et ça, c'est quelque chose que les malachim ressentent très fortement. Ils ressentent très fort ça, les malachim. Ça, les malachim, ils n'arrêtent pas d'essayer de monter, de chercher Akadosh Baruch Hu, parce que le Maïmonide dit clairement que les malachim ont une compréhension. Ils n'ont pas de corps, mais ils ont une neshama, ils ont une compréhension. Ils n'arrêtent pas d'essayer de s'approcher du divin, et dès qu'ils sentent qu'ils sont presque là, on dit non, ils comprennent que c'est encore plus haut. Et comme ça, ils n'arrêtent pas. C'est pour ça qu'en hébreu, on dit Kadosh, Kadosh, Kadosh. Kadosh en hébreu, ça veut dire quoi? Ça veut dire séparé. C'est-à-dire que les malachim n'arrêtent pas de dire Kadosh, Kadosh, Kadosh. Il est plus haut, il est plus haut, il est plus haut. C'est ce qu'ils font constamment. Kelomar, comme on a dit ici, Shou Mouvdal Mehen, que Akadosh Baruch Hu, ils arrivent à la conclusion que Akadosh Baruch Hu est séparé d'eux, Veinomit Labesh Bahen du Prénat Giloui. Et Dieu ne se dévoile pas chez eux. Alors s'ils ne se dévoilent pas chez eux, chez qui ils se dévoilent? Chez qui ils se dévoilent? Qu'est-ce qu'ils disent les malachim là-bas? Mais l'okolaret kvodo! Ces malachim qui sont en train presque de pleurer face à Akadosh Baruch Hu. Ils disent, attends, on a envie de s'approcher, et chaque fois, d'accord, sans cesse. Qu'est-ce qu'ils sont en train de dire à ce moment-là, au moment où ils comprennent que Dieu, d'accord, qu'on ne pourra jamais atteindre Akadosh Baruch Hu, que Dieu est impénétrable, qu'est-ce qu'ils disent à ce moment-là? Ils disent, Mlo kolaret kvodo, ce Dieu que nous on n'arrive pas à pénétrer, ce Dieu que nous on n'arrive pas à comprendre, ce Dieu emplit le monde. C'est quoi le monde, quand on dit le monde? Ik neset Israël, mala ve Israël matakanal. C'est comme ce qu'on a expliqué dans le chapitre 46, que quand on dit le monde, qu'est-ce qu'on entend par le monde? Le monde, on entend Knesset Israël. On entend l'assemblée d'Israël telle qu'elle est en haut. Et telle qu'elle est en bas. C'est quoi la différence entre l'assemblée d'Israël, telle qu'elle est en haut et telle qu'elle est en bas? L'assemblée d'Israël, telle qu'elle est en bas, vous allez avoir chacun qui va croire que pour servir à Kadosh Baruch Hu, il doit utiliser une technique particulière. Donc chacun il va dire, moi je fais partie de tel groupe, on sert à Kadosh Baruch Hu comme ça. Moi je fais partie de tel groupe, on sert à Kadosh Baruch Hu comme ça. Ça c'est Knesset Israël, telle qu'elle est en bas. Telle qu'ils sont en bas. Telle qu'on est en bas, d'accord, dans le monde, telle qu'on est, donc on est devenu matériel, chacun, il pense qu'il a raison, et c'est normal. D'accord. Chacun est libre de penser ce qu'il veut.
Non, pas de procès d'intention.
Non, il n'y a pas de procès. Je parle de
juste. Non, non, pas de non. Pas de non. Je commence par Louba.
Non, il n'y a pas de... De manière générale, c'est la différence qu'il y a. Est-ce qu'on doit servir à Kadosh Baruch Hu de manière ésotérique, d'accord, ou de manière halakhique? D'accord. Je rentre pas dans les détails, non, c'est un concept qui a existé depuis toujours. D'accord. Une seconde. Bon, mais ça c'est une parenthèse. D'accord. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça c'est la Knesset d'Israël telle qu'on est en bas. Telle qu'on est en bas, il y a des différences. Parce que les Neshamot ne sont pas toutes les mêmes. Il y a des Neshamot qui sont plus attirés vers certaines choses, et des Neshamot qui peuvent attirer vers d'autres choses. On ne pourra pas changer la nature, c'est comme ça. Sauf que ça c'est les Neshamot d'Israël telles qu'elles sont en bas. Mais Knesset Israël, on se dit, c'est quoi Knesset Israël? C'est l'assemblée d'Israël. C'est une seule entité. Là-bas, c'est apolitique, il n'y a pas de politique là-bas. Il n'y a pas de politique, il n'y a pas de différence. Là-bas, c'est tout l'âme Israël est une seule entité. On dit que ce niveau-là, hein, il se dévoile chez l'âme Israël lorsque Dieu préserve, on passe des moments de Sarah, des moments de détresse. on a des témoignages de gens qui sont passés par, par les camps, qui nous racontent que dans les camps, il y avait ce sentiment de Knesset Israël, d'union entre les juifs. Que même les juifs qui étaient réchaïs, mais très possible que même là-bas, ils n'en avaient rien à faire de la religion, c'est très possible. D'accord, on ne sait pas. Enfin, peut-être qu'ils ont dit chemin Israël avant de partir de ce monde, on espère certainement. Mais on sentait une union. Pour dire que, quoi qu'il arrive, quoi qu'on pense, on fait tous partie du même peuple. Ça, c'est écrit que cette qualité-là hein, se dévoile lorsqu'on passe des moments difficiles. C'est là qu'on dit qu'en vérité, derrière tout ça, en vérité, on est tous le même peuple.
C'est moins fort, mais ça existe quand même.
Ça existe, mais ça existe dans les moments forts.
Ça se dévoile dans ce moment-là.
Ça existe dans ce moment-là, malheureusement, c'est comme ça. C'est comme ça que Kadosh Baruch Hu a fait l'homme. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit si on revient à notre sujet. Ou Mashmi Beira. Tu avais une question, Guy. Sur l'ésotérique et alachique.
Oui. Oui, c'est quoi, c'est le rabbin et les c'est quoi le mouvement des Kohanim, là où les Kohanim appartenaient à quel mouvement?
Les Kohanim? Quel Kohanim? C'est quoi les Kohanim?
Ah,
T'as vu comment ils faisaient des gros mouvements, les
Kohanim?
Ah non, ceux-là, ils sont hors concours, ceux-là.
Pourquoi?
Je connais pas l'histoire avec le j'ai raconté à Yaakov. Une fois, il y a...
Non,
non, pas du tout. Pas du tout, aucun rapport.
Ce qui vous faisait que la loi écrite, tu veux dire...
Il y a une histoire qu'on raconte. Une fois, il y a un juif réformé.
C'est du saint, non?
Il y a un rabbin réformé qui est venu voir le... Oui, il est saint. Non, c'est pas de ça que je parle du tout. Il y a un rabbin réformé qui est venu voir le Hafetz Chaim, à la Vachalom.
Chaim.
Il sert au nouveau.
Il a peur.
Joseph,
il
a pas de j'ai acheté cette bouteille avec. Moi, je pas. J'ai acheté cette bouteille avec tes 20 euros.
Non, c'est pas samaritain.
Les samaritains sont des convertis.
Non.
Une histoire qu'on raconte avec le. Avec. Attendez, bon, écoutez l'histoire. Une histoire qu'on raconte avec le Hafetz Chaim. D'accord, à la Vachalom. Une fois, il y a quelqu'un qui est un rabbin réformé qui est venu voir le Hafetz Chaim et qui lui a posé la question suivante.
Réformé ou déformé?
Les deux. Il a posé la question suivante. Il lui a dit, pourquoi chez vous, chez les religieux, vous n'êtes jamais d'accord sur la manière de servir à Kadosh Baruch Hu? Vous ne pouvez pas vous entendre. Je ne comprends pas. Vous dites qu'il y a une seule Torah. Vous dites que la Torah ne peut pas changer. Si la Torah ne change pas, dans ce cas-là, vous devrez être d'accord sur la même Torah. Alors le Hafetz Chaim a répondu à la chose suivante. Il a répondu, il lui a dit, je t'expliquais. Dans une armée, d'accord? Dans une armée, dans chaque pays, il y a une armée. Dans l'armée, il y a plusieurs divisions. Tu as par exemple la division de l'armée de l'air, division de l'armée de terre, tu as la division des marines. Tu as plusieurs divisions. Chacune des divisions est persuadée qu'elle est la plus importante pour amener la victoire. Tu demandes aux sous-marins, ils vont te dire c'est nous les plus importants. Sans nous, il n'y a pas les renseignements, il n'y a pas le... Tu demandes aux hommes du terrain, ils vont te dire si on ne passe pas dans le terrain, tu peux envoyer autant de missiles que tu veux, mais ils vont continuer à nous embêter. Tu parles aux hommes de l'air, ils vont te dire nous on est capable de tout casser. Chacun, on le voit aujourd'hui, chaque division va défendre, d'accord, va dire que notre division est la division la plus importante pour l'armée. Et pourtant, quand on voit l'image de loin, on sait très bien qu'on a besoin de toutes ces divisions. Et même si chacune des divisions, ils vont des fois peut-être se chamailler un petit peu, être en concurrence, que l'armée de l'air va dire oui, nous on a amené plus que l'armée de terre, etc. Mais en vérité, quand on voit l'image de loin, on sait très bien qu'on a besoin de tout ça. Et qu'on a besoin de toutes ces divisions pour gagner la guerre. Donc on a dit, voilà, maintenant tu comprends pourquoi dans le Ham Israël, il y a tellement de courants. Alors le rabbin informé, il a posé la question, il lui a dit, ah oui, Rabbi, et nous on appartient à quelle
armée?
À quelle armée? Il a dit, vous êtes les déserteurs.
Elle est pas mal, celle-là, hein.
Donc, ça c'est Knesset Israël en haut. Knesset Israël en haut, c'est quand on réalise qu'en vérité, on fait tous partie de la même armée. Même s'il y a des divisions, même s'il y a des désaccords, etc. Mais en vérité, sauf tout compte fait, on fait tous partie de la même armée. Donc qu'est-ce qu'ils font ces malachim? On revient aux malachim maintenant. Rappelez-vous, il ne faut pas perdre le fil. On a dit qu'on essaie de comprendre la grande question qu'on a aujourd'hui, c'est comment faire pour arriver... Je ne vous dis pas qu'on arrivera à 100% à la réponse aujourd'hui, parce qu'il y a encore plusieurs... Comment arriver à sacrifier complètement son ego pour Akadosh Baruch Hu? C'est impossible. Tu me demandes de faire une mitzvah, d'essayer de comprendre la mitzvah. À la limite, tu me dis, tu sais, sacrifie tes volontés, mais plus tard tu auras le Gan Eden. Ça, je peux. Parce que j'ai pas sacrifié mon ego, là. Pas du tout, au contraire. Une personne qui dit je fais des efforts ici parce que je sais que la vie ici est temporaire et que plus tard j'aurai le Gan Eden, je vais pas sacrifier mon ego. Au contraire, je suis pas en train de sacrifier mon ego, je suis en train de construire mon ego. Là, qu'est-ce que tu me dis ? Tu es en train de me dire que Ve'aftet Hashem Elokecha, c'est Kadosh Baruch Hu attend de toi, que pourquoi tu fais les mitzvot, c'est ni pour avoir un salaire, ni pour un Gan Eden, ni pour un kiff. Tu fais les mitzvot, tu fais abstraction de toi, tu le fais pour Kadosh Baruch Hu. Comment c'est possible d'arriver à ça ? La clé de la réponse se trouve dans les brachot d'introduction au Kriyat Shema. Où elle se trouve ? On a commencé par la bracha de Yotzer Or. Dans la bracha de Yotzer Or, on nous raconte longuement comment les malachim, sont en train de louer à Kadosh Baruch Hu sans cesse, et sont en train, quelque part, pas de se plaindre, mais de dire à Kadosh Baruch Hu, Kadosh, 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 ça veut dire, on peut jamais t'attraper, tu es impénétrable, on peut jamais t'attraper. D'accord ? Et d'un autre côté, qu'est-ce qu'ils disent, Guy ? M'lo kolares kvodo, ça veut dire quoi ? Ça veut dire, il dit, nous on n'arrive pas à l'attraper, mais, qui c'est qui arrive à l'attraper ? Qui c'est qui pourrait arriver à l'attraper ? Israël. Vechen, pareil. Aofanim v'chayet akodesh. D'accord ? Qu'est-ce qu'on dit dans la suite ? On dit Aofanim v'chayet akodesh. On dit que donc ces deux catégories de malachim. Beraj gadol mitnasim lomata seraphim. On dit qu'ils viennent avec un grand bruit, avec un bruit beaucoup plus fort, un vacarme beaucoup plus grand que le vacarme des séraphim. Et ils disent Baruch kevad Hashem imkomo. Dieu est béni où il est. C'est-à-dire quoi, où il est ? Le commentaire explique le suivant. Il dit que la différence qu'il y a entre les Sraphim et les Ophanim, c'est que les Sraphim, ils sont très structurés. Ça veut dire que les Sraphim comprennent qu'ils ne comprennent pas. C'est déjà un niveau, ça. Vous savez, des fois, ça arrive qu'on va essayer de comprendre quelque chose, comme ce qu'on fait dans le Tanya. On va comprendre ou comprendre pas. Oui. D'accord ? J'explique. Souvent. D'accord ? C'est quoi les Sraphim ? Les Sraphim, ça veut dire que eux, à chaque fois, ils montent, et ils comprennent. Mais dès qu'ils arrivent presque au point où ils vont comprendre, tac ! Ça y est, on leur dit, en vérité, tu comprends pas. C'est-à-dire qu'il y a une structure, ils comprennent pourquoi ils comprennent pas, ils comprennent que ça les dépasse. Ça, c'est les Sraphim. Les Ophanim, c'est ceux qui voient flou dès le départ. C'est ceux qui sont éblouis, ils voient des lumières. C'est pas qu'il va être inspiré, qu'il va chercher à comprendre, qu'il va chercher à comprendre la Gemara, il va chercher à comprendre son texte, et après, à un certain moment, il va se bloquer, il va dire, ah, la beauté de la Torah. Non. Dès le début, il voit des lumières, il est ébloui. D'accord ? On retrouve ces deux catégories dans l'âme Israël. Mais bon, là on parle des malachim. Dans les malachim, qu'est-ce qu'on nous dit ? Il y a deux catégories de malachim. Il y a les malachim qui sont sraphim, les malachim qui sont ophanim. Il y a les malachim qui sont éblouis en fin de parcours. D'accord ? C'est-à-dire qu'ils doivent faire d'abord un parcours pour réaliser que c'est impénétrable. Il y a d'autres malachim que dès le début, Beraj Gadol directement avec un grand vacarme, ils disent laissez tomber, on ne comprendra jamais rien. Il y a deux catégories de malachim. Ils voient des lumières directement. Mais le point commun qui est entre ces deux groupes de malachim, ces deux catégories de malachim, c'est que les deux groupes de malachim disent la même chose. Le premier groupe de malachim disent Kadosh, Kadosh, ça veut dire Dieu est, on a dit, est séparé, c'est-à-dire Dieu est impénétrable. Alors eux, ils disent ça une fois, après qu'ils ont fait une longue et mûre réflexion. Oui. Alors que le second malachim, on a dit Léophanim, eux, ils disent ça dès le début. Mais ça veut dire que c'est une question de timing, c'est une question de méthode, c'est la méthode qui va changer. Mais le résultat est le même. C'est que et les Sraphim, et les Ophanim, d'accord, et les Chayot, donc toutes ces trois catégories, les trois disent directement la même chose, elles disent qu'on ne comprend pas Kadosh Baruch Hu, on ne saisit pas Kadosh Baruch Hu, on ne pourra jamais toucher le divin. Alors que les hommes, c'est les anges qui nous le disent, ils nous disent Mlo kolaret kvodo, à Kadosh Baruch Hu emplit toute la terre, donc il est là, donc on peut le toucher, donc c'est palpable. Les fiches, en yodi ou masigi me komo kmo shekatuv ki hu levado. Marom Vekadosh. Qu'est-ce qu'on dit aussi là-bas dans le bracha Yotzer Or ? Vous verrez la traduction après si vous voulez, vous verrez que toute la bracha de Yotzer Or tourne autour de ce point. On dit qu'Ihu Levado Marom Vekadosh, ça veut dire Akadosh Baruch Hu est élevé et séparé à lui tout seul. Et ça, tous les malachim le disent. Après, c'est une question de méthode. Il y en a qui ont de réflexion pour ça, il y en a que dès le début ils l'ont compris. Mais c'est une question de méthode. Mais tout le monde est d'accord. Tous les malachim sont d'accord que Akadosh Baruch Hu est impénétrable. Donc ça, c'est la première bracha. Première bracha avant le Kriyat Shema, qu'est-ce qu'on fait ? On nous explique comment tous les malachim, pour nous, quand on s'imagine les malachim, on dit, quand on voit quelqu'un qui se comporte comme un tzadique, on dit, ah, c'est un malard celui-là, c'est un ange. Quand il se comporte comme un ange. On te dit, sache que même les anges, qu'est-ce qu'ils disent des anges ? Les anges, ils disent, nous, on ne peut pas attraper Akadosh Baruch Hu, alors que vous pouvez l'attraper.
Seconde. Niveau inférieur, niveau
seconde. Je n'ai pas fini. D'accord ? Je vais finir le développement. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les anges, ça veut dire que première bracha du Kriyat Shema, qu'est-ce qu'on est en train de nous montrer ? Ah, on est en train, bien qu'elle n'a pas de lien direct avec le Kriyat Shema, qu'est-ce qu'on nous dit dans la première bracha du Kriyat Shema ? Première bracha du Kriyat Shema, comme ça demain si vous lisez à toute vitesse, même si vous n'avez pas le temps de vous arrêter sur chaque mot. Le point principal de la bracha du Yotzer Or, c'est qu'on réfléchit à la grandeur de la Kadosh Baruch Hu et comment tous les anges sont en train de dire que Kadosh Baruch Hu est impénétrable. Et avec ça, qu'est-ce qu'ils disent ces anges? Ils disent oui, mais eux, ils peuvent. Eux, les Bnei Israël, ils arrivent.
Alors
ça, c'est la première bracha. Second. Vacharkar. Expliquer comment c'est une introduction au schéma, comment c'est une introduction à l'abstraction de soi-même. Vacharkar. Et ensuite. Bracha Shnia. Ensuite, on a une seconde bracha. C'est quoi la seconde bracha qu'il y a avant le Kriyat Shema? Avat Olam Aftanu Hashem Elokeinu. Vous avez?
Il a, il devait avoir.
Vous avez dans les mots? Où on est dans les mots?
Vacharkar.
Vous avez au niveau de... Voilà, ici, Vacharkar. Vacharkar. Bracha Shnia. Et ensuite, on a une seconde bracha. Qu'est-ce qu'on a cette seconde bracha? On dit Avat Olam Aftanu Hashem Elokeinu. Dans cette seconde bracha, qu'est-ce qu'on va nous dire? On va nous dire Avat Olam Aftanu Hashem Elokeinu Akadosh Baruch Hu. Tu nous aimes d'un amour éternel, d'un amour inconditionnel. Kelomar, ça veut dire, qu'est-ce que ça veut dire Akadosh Baruch Hu nous aime par Avat Olam? C'est pas pour rien s'il y a un ordre dans les brachot. Tout d'abord, on nous dit la première bracha avant le Kriyat Shema, dans lequel on nous dit clairement que les anges, d'accord, disent clairement qu'ils peuvent pas, qu'ils peuvent pas, qu'ils n'arrivent pas à toucher le divin. Ils disent clairement. Après, qu'est-ce qu'on nous dit dans le deuxième bracha? On nous dit que Akadosh Baruch Hu, il nous aime et il s'occupe de nous. Donc ça veut dire quoi? Celui qui réfléchit un petit peu, il comprend, il dit, ça veut dire que Akadosh Baruch Hu laisse les anges pour nous. Il va délaisser les anges pour nous. C'est ce que tu es en train de me dire. Il dit que les anges, quelque part, se plaignent, enfin, disent en tout cas, que Dieu est impénétrable. Et juste après, tu dis, mais Dieu, il nous aime, et il nous donne, et il nous donne, et il nous donne. Ça veut dire quoi? Kelomar, ça veut dire. Sheiniar kol tzva malak doshim. Kakadosh Baruch Hu a mis de côté, encore une fois, abstraction. Kakadosh Baruch Hu a mis de côté toute l'armée céleste. D'accord? Toute l'armée de Malachim. Veishra shrinato alenu. Et Kakadosh Baruch Hu a décidé, a dit, sur qui je vais donner ma shrina? Sur qui je vais résider? Sur nous. Liot nikra eloke nous. D'accord? À tel point qu'on dit Baruch Ata Hashem eloke nous. Notre Dieu, notre force. C'est-à-dire quoi notre Dieu? Comme on a expliqué dans le cours sur la Tfila. Ça veut dire que Kadosh Baruch Hu nous appartient. Ça, les Malachis ne peuvent pas le dire. Ils sentent pas comment Dieu leur appartient.
Ça veut dire que
ils sentent pas comment leur destin leur appartient.
Hashem, il est méchant avec eux alors.
Non?
Ils ont conscience qu'ils peuvent
non,
pas.
Non, on va arriver à leur but. Ils n'ont pas de libre arbitre, Bichlal. Donc la question se pose même pas.
Ils ont des sentiments.
Ils n'ont pas de libre arbitre. Pour eux, ils sont conçus pour tourner comme ça. C'est des robots.
Ah non, tu veux dire que c'est pas des robots qui ont des sentiments?
C'est des robots qui ont des sentiments, des robots programmés.
C'est un robot. Un robot qui a des sentiments, c'est un robot.
Ils sont pas jaloux. Ils sont pas jaloux. Les Malachim, ils nous racontent quelque chose. D'accord? Ils constatent. Non, les Malachim, les Malachim, c'est pas qu'ils attaquent à Kadosh Baruch Hu. Les Malachim, ils disent, on dit qu'ils sont en train constamment de dire aïe, mais comme Kevodo, où se trouve à Kadosh Baruch Hu? Et ils répondent, ils disent à Kadosh Baruch Hu est en bas. Ça veut dire que les Malachim constatent, pardon, les Malachim prennent conscience, d'accord, les Malachim prennent conscience qu'en vérité, ils ne sont pas la raison principale pour laquelle le monde a été créé. Je ne sais pas si vous arrive ce sentiment, des fois vous avez l'impression que vous êtes en trop.
Oui, c'est normal.
D'accord. Les Malachim, des fois, ils ont cette impression-là. Ils disent, mais on est en trop, quoi. Dis-nous clairement, on est en trop.
À la maison, des fois, ils nous arrivent, quoi.
À la maison, ça arrive.
Tiens, prends ton assiette et mange. Moi, si je dérange.
On a l'impression qu'on est en trop. Ça, c'est les Malachim. Les Malachim, d'accord, ils ont l'impression, d'accord, parce que Kadosh Baruch Hu les a quelque part délaissés. Akadosh Baruch Hu aurait pu dire que je m'occupe des Malachim, je vais gâter les Malachim, je vais faire un Gan Eden extraordinaire, etc. Et pourtant, on voit que Akadosh Baruch Hu n'a pas fait ça. Akadosh Baruch Hu, qui sait qui a le droit de dire Eloke nous, notre Dieu, c'est que le Neshama d'Israël. Les Malachim ne peuvent pas dire Eloke nous. Les Malachim, ils parlent de Dieu, ils disent pas notre Dieu, parce que c'est pas leur Dieu. Pour dire que c'est mon Dieu, il faut que je me l'approprie. Or, les Malachim ne peuvent jamais s'approprier.
Donc, ils sont malheureux.
Les seules entités... Une seconde, on va parler. Les seuls, au contraire, tu dois dire, on est heureux. Les seules entités, non, d'accord, la seule chose dans le monde, la seule chose dans le monde qui est capable de s'approprier à Kadosh Baruch Hu, c'est nous. Kemo, par exemple, comme on dit, Eloke Avraham. Vous nous expliquez ici, qu'est-ce que ça veut dire lorsqu'on dit que Kadosh Baruch Hu est notre Dieu? J'ai déjà posé la question, qu'est-ce que ça veut dire quand on dit que Kadosh Baruch Hu est notre Dieu? On dit mon Dieu. Mais c'est pas mon Dieu. Pourquoi je dis notre Dieu? Le Dieu, pourquoi mon Dieu, notre Dieu? Pourquoi on dit notre Dieu? Il ne nous appartient pas. C'est nous qu'on lui appartient. nous lui appartenons.
C'est le fait de se rapprocher.
Ah, pourquoi on dit notre Dieu, ça veut dire quoi? Je suis dit Yves, oui.
C'est une question de rapprochement. Quand c'est notre Dieu, on le ressent davantage.
Exactement. C'est comme ce qu'Abraham Avinu a dit. Quand on dit Eloqué Avraham. Quand on dit Eloqué Avraham, Eloqué Israël, Eloqué Jacob, c'est pour dire qu'Abraham, Israël et Jacob, ils étaient tellement annihilés à Dieu. Ils étaient tellement attachés à Kadosh Baruch Hu que ce que Kadosh Baruch Hu voulait, c'était ce qu'eux, ils voulaient. Ça, les malachis ne peuvent pas l'avoir. Les malachim sont constamment en train de chercher qu'est-ce que Kadosh Baruch Hu veut, qu'est-ce que Kadosh Baruch Hu attend d'eux. Et dès qu'ils arrivent, ils pensent que ça, ils ont compris, tac, on leur dit non, c'est encore plus haut, encore plus haut, encore plus haut. Ça, c'est les malachim. La seule personne qui peut dire Eloqué nous, c'est notre Dieu, que quand je fais une mitzvah, je peux pleinement dire que je fais la volonté d'Akadosh Baruch Hu, et je suis sûr que je la fais, c'est nous. Knesset Israël, l'Assemblée d'Israël. C'est les seuls. Les autres, les malachim, ils sont constamment en train de chercher de dire Aïe, mais comme Kevodo, où se trouve Akadosh Baruch Hu? Comment on peut lui faire plaisir? Et à chaque fois, dès qu'ils arrivent presque à lui faire plaisir, ils disent, ah, c'est pas ça, c'est encore autre chose. Et ils sont constamment comme ça en train de se faire des courses. Et de
alors
monter,
nous,
de monter, de monter.
La cible à travers une action.
C'est pour ça que les srafim, on les appelle exactement. C'est pour ça que les srafim, srafim, ça veut dire du mot srefa. Srefa en hébreu, ça veut dire quoi? D'accord? Enflammé. C'est vraiment enflammé. D'accord? Ça veut dire que les malachim qui sont srafim, ainsi que les autres, mais c'est pour l'exemple des srafim, ils sont constamment en train de se consumer face à Kadosh Baruch Hu.
Ceux qui sont en haut, ceux-là.
Oui. Tous?
Non, c'est sûr. Ils sont plus hauts que les...
Non, les ophanim. Les ophanim, c'est ceux que dès le départ, ils sont comme ça. Ophanim en hébreu, ophan en hébreu, c'est une roue. D'accord? C'est comme la roue d'un... Ophanaim. Ophanaim, oui. En hébreu, ophanaim, c'est un vélo. Mais ophan, ophan en hébreu, oui. D'accord? C'est une roue. De la même manière que la roue d'une voiture, la roue d'un carrosse, n'a pas de pensée propre. D'accord, si le cheval a décidé de faire avancer la charrette avec la roue, bah la roue avance, elle n'a pas de pensée propre. Les malachim qui sont au fanim, ils sont tellement annulés à Kadosh Baruch Hu que c'est pas qu'ils sentent qu'ils sont en train de se brûler constamment face à Kadosh Baruch Hu. Ils sont tellement annulés à Kadosh Baruch Hu qu'ils sont comme une roue. La roue de la charrue, la dernière roue de la charrue.
C'est la roue du carrosse.
D'accord. La roue du carrosse, ouais. Ça, c'est ophanime. Bon, mais ça, c'est une parenthèse. Hein. Ouais. Je vais pas vous embrouiller.
Non, parce que tu sais, on avait vu que les Neshamot, suivant les anges,
oui, oui,
c'est
oui.
Pas au même niveau de...
C'est sûr, ça. Ça change pas. Toutes les Neshamot, à la base, viennent de Hatsilut. Après, il y en a qui sont arrêtés à un niveau plus haut que d'autres. Bah, nous, ça veut dire... Kiava, Dochek, et Abasa. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu nous dit comment Akadosh Baruch Hu il peut ne pas s'attacher au Malachim mais s'attacher à nous. C'est impossible a priori. Si Akadosh Baruch Hu montre au Malachim, si Akadosh Baruch Hu montre au Malachim que pour eux il est impénétrable, alors comment nous on peut se permettre de dire que nous on va pénétrer Akadosh Baruch Hu? C'est impossible. Et qu'est-ce qu'on a dit? La seule raison possible pour ça, c'est parce que l'amour repousse la chair. Vous rappelez l'histoire qu'on a racontée la semaine dernière? D'accord? Je racontais pour ceux qui n'étaient pas là brièvement. Avec, elle raconte qu'il y avait deux rachamim qui étaient gros, d'accord. Et une fois, une femme qui est venue les voir, d'accord. Une femme qui faisait partie du royaume, qui est venue les voir, et qui leur a dit, ils étaient tellement gros que... Elle leur a dit, d'après moi, vos enfants ne vous appartiennent pas. Pourquoi?
Ni parce après, que gros comme vous êtes, je vois pas comment vous avez pu avoir des enfants.
Gros comme vous êtes, je vois pas comment vous avez pu avoir des relations avec vos enfants. Je vois pas comment vous avez pu avoir des relations avec votre femme. Comme ça, elle leur a dit. Et qu'est-ce qu'ils ont répondu les rachamim? S'ils ont répondu, c'est déjà pas mal qu'ils ont répondu. S'ils ont répondu, ça veut dire qu'ils pensaient que la question était sincère. Sinon, ils n'auraient pas répondu. Qu'est-ce qu'ils ont répondu?
L'amour diminue la
chair. Ils ont répondu, Ahava d'Ochekat Abassar. L'amour repousse la chair. L'amour, ça veut dire l'amour va retrécir la chair. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'ils voulaient dire par derrière? Ce qu'ils voulaient dire par derrière, c'est que le message qu'on expliquait, c'est que le Maharal de Prague l'explique. Parce qu'en vérité, ce qui se passait par derrière, c'est que c'est le Yetzer Hara qui est en train de dire à une personne, qui est en train de lui dire, tu as tellement de matérialité, tellement grossier, d'accord, que je ne comprends pas comment c'est possible qu'une personne comme toi va réussir à avoir une relation avec Akadosh Baruch Hu. C'est impossible. Je ne comprends pas comment toi tu peux t'attacher à Dieu et comment Dieu peut s'attacher à toi. Je ne comprends pas comment tu es capable de dire que tu t'es attaché à Dieu et que vous avez fait des enfants, les mitzvot, les étincelles, c'est impossible. On est tellement grossier, d'accord, on est tellement matérialiste que c'est pas possible. C'est une très bonne question. Ça, c'est la question qu'elle a posée à la Matronita. La question qu'elle a posée, elle dit, c'est pas vos enfants, c'est pas possible, il y a un problème. Ne me dis pas que les étincelles de Kdoucha, qui vont pas être récupérées par les anges, vont être récupérées par vous, c'est pas possible, il y a un problème. Qu'est-ce qu'ils lui ont répondu? Ils lui ont dit à Ava d'Ochekat Abassar. Que lorsqu'on aime quelque chose, d'Ochekat Abassar, ça va permettre de réduire toute la graisse, d'accord ? Et on fait comme si que le problème n'est pas là. Ça veut dire que lorsque nous on aime Akadosh Baruch Hu, et lorsque Akadosh Baruch Hu il nous aime, Akadosh Baruch Hu va être capable de résider en nous, Akadosh Baruch Hu va être capable d'être notre Dieu, chose qu'il n'a pas pour les Malachim. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que là on comprend beaucoup mieux qu'est-ce que ça veut dire quand on dit qu'Akadosh Baruch Hu nous aime. Les Malachim ils nous aiment pas. Les Malachim ils les aiment pas, les Malachim ils les a créés. Les Malachim font partie de sa création. Qu'est-ce que ça veut dire quand on dit qu'Akadosh Baruch Hu Ahavat Olam Ahavtanu ? Qu'Akadosh Baruch Hu il aime le Ham Israël. Qu'est-ce que ça veut dire quand on dit qu'Akadosh Baruch Hu il aime le Ham Israël ? Ça veut dire quoi ? Il n'aime pas toutes les créatures, Akadosh Baruch Hu ? Ça veut dire quoi qu'il aime le Ham Israël ? Maintenant on comprend ce que ça veut dire. Quelle qualité on veut nous faire sortir par ici ? On veut nous expliquer comment c'est possible qu'un juif, même s'il a une grande neshama, mais concrètement c'est un homme, un chair et un os, comment il peut accomplir la volonté d'Akadosh Baruch Hu ? Comment c'est possible ? Comment il peut avoir des relations avec Akadosh Baruch Hu ? Comment il peut donner des enfants ? Qu'est-ce qu'on te répond ? C'est valable des deux côtés. Que lorsqu'un juif il aime Akadosh Baruch Hu, et lorsqu'un Akadosh Baruch Hu aime le juif, Akadosh Baruch Hu va faire comme si que la chair n'est pas là, et nous aussi on va faire comme si que la chair n'est pas là. Et ce qui va se passer, c'est quoi ? C'est que Ahavat Olam Aftanu, Akadosh Baruch Hu nous aime. Velachen Mikra, Ahavat Olam. C'est pour ça que Nikra Ahavat Olam, c'est pour ça que cette bracha, on l'appelle Ahavat Olam. La bracha, elle démarre, la deuxième bracha du Kriyat Shema, elle démarre par Ahavat Olam Aftanu Hashem Elokeinu. Alors chez les Ashkenazim, ils disent Ahavat Rabba Aftanu. Après, c'est un détail. Pourquoi Ahavat Olam ? Pourquoi selon le minhag du Arizal ? Donc c'est pour ça, moi je le dis comme ça, dans Sidour Sfarat aussi comme ça, on dit Ahavat Olam, on ne dit pas Ahava Rabba. Ahavat Olam en hébreu ça veut dire un amour éternel. Ahava Rabba ça veut dire un grand amour. Bon, c'est pas une grande différence, quoi, une grande différence ? La différence est énorme. Pourquoi ? Parce que Olam, on a expliqué dans les cours précédents, Olam, c'est les mêmes lettres que Elem. C'est la même racine que Elem. Elem qui veut dire le voile caché. Et qu'est-ce qu'on te dit ? On ne te dit pas Ahava Rabba, on te dit Ahavat Olam. Ahavat Olam, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que Akadosh Baruch Hu, il aime le voile. Ça veut dire que Akadosh Baruch Hu, il nous aime, bien qu'on est voilé encore plus que les Malachim. C'est ça que ça veut dire Ahavat Olam.
Peut-être que Akadosh Baruch Hu aime les Sfarad et les Ashkenazim.
Très Nikra Ahavat Olam. Il explique pourquoi le Arizal a changé. Donc, Shehi, le Arizal nous a dévoilé des choses qu'avant on ne pouvait pas dévoiler. Shehi, Prinat Tinsumora Gadol, Abil Sitachlit, Leitla, Beju Prinat Gvul, Nikra Olam, Bahavur Ahavat Amo Israël, Akadosh Baruch Hu pour nous aimer. Akadosh Baruch Hu pour nous aimer. Akadosh Baruch Hu a dû se voiler, comme ce qu'on a expliqué longuement dans le chapitre précédent. Imaginez-vous, les Torah et Mitzvot sont tellement profondes. Et Akadosh Baruch Hu a dû les faire descendre dans notre monde. Il a dû les habiller dans des concepts matériels. À tel point qu'il y a des juifs qui peuvent penser que la que Torah et Mitzvot, il n'y a rien de particulier. Il n'y a rien de spécial. Il n'y a rien d'ésotérique. Il n'y a rien de particulier. C'est matériel. Imaginez-vous combien Akadosh Baruch Hu a dû faire descendre sa Torah et ses Mitzvot. Pourquoi il a fait tout ça ? Pour qui il a fait tout ça, Akadosh Baruch Hu ? Pour qui il a fait ce Messirut Nefesh, cette abnégation ? Pour qui Akadosh Baruch Hu a fait abstraction de soi ? Bavour Ahavat Amo Israël Kedé les Karvam Elav Likael Bichud Vantuit Barer. Parce que Kadosh Baruch Hu savait que la seule manière de permettre au Ham Israël de se lier à lui, la seule manière de permettre au Ham Israël de se lier à lui, c'est quand Kadosh Baruch Hu va faire abstraction de soi. Parce que c'est comme le professeur, comme l'exemple qu'on a donné la semaine dernière. Quand vous avez un professeur qui a une grande idée qu'il veut faire passer à ses élèves, une idée très très forte, d'accord ? Si il fait passer l'idée telle qu'elle, parce qu'il aime très fortement son professeur, son élève, l'idée ne passera pas. Pourquoi l'idée ne passera pas ? Parce que l'élève n'est pas prêt. Si le professeur va vraiment aimer l'élève, le professeur va devoir se contracter. C'est-à-dire qu'il va devoir essayer de prendre cette idée, c'est très très dur. Et c'est comme essayer de prendre une idée très compliquée et de l'expliquer à un enfant. C'est très très dur. Parce qu'il faut être capable de décortiquer l'idée et de la faire descendre. C'est dur. Élève, c'est un voile. Mais quand on aime vraiment quelqu'un, on y arrive et on est capable de le faire. Ahavat Olam. Comme ce que j'en avais dit au début du Tania, on avait dit, je crois que c'était chapitre 3 ou chapitre 4, on avait expliqué que c'est écrit que le roi Salomon va d'abord se le chat à la fille Machal. C'est écrit que le roi Salomon, sur chaque sujet donné, il était capable de donner 3000 exemples. 3000 exemples, ça ne veut pas dire 3000 exemples, ça ne veut pas dire que du point numéro 1, d'accord, j'ai 3000, 3000 bifurcations. Non. Ça veut dire que je donne un exemple, après l'exemple de l'exemple, après l'exemple de l'exemple, 3000 niveaux comme ça. Qu'est-ce que ça veut dire 3000? Ça veut dire quoi? C'est bon.
Il faut comprendre 3000 ou...
Donc, ça veut dire 3000 niveaux. D'accord? C'est une manière de dire qu'il était capable de descendre très loin.
Ah oui.
Bon. Alors, pourquoi les commentaires là posent la question, ils disent, mais c'est quoi le... Qu'est-ce qu'il y a de tellement particulier? Prends le mouchoir,
dans ça. Qu'est-ce qu'il y a dans 3000 de particulier? Qu'on a pas 4000, 5000, 10000 ou 20000.
D'accord? Là-bas, les farcines posent la question, ils disent, mais qu'est-ce qu'il y a de tellement particulier? Pareil, la Gemara raconte aussi sur Rabbi Meir, il a dit que dès que Rabbi Meir est Niftar, Mishemet, la Gemara à la fin du traité Sota, elle dit, Mishemet, Rabbi Meir, Batlou, Moshele, Meshalim. Depuis que Rabbi Meir est Niftar, ceux qui étaient, on avait plus de gens dans le monde qui étaient capables de donner des Meshalim, de donner des paraboles. Pareil, le farcine pose la question, il dit, mais c'est quoi la grande chorma de donner une parabole? De faire descendre, c'est pas compliqué, au contraire. C'est les... Alors ça veut dire quoi? Tu es en train de me dire ici qu'un professeur qui m'a enseigné au GAN, il est plus intelligent qu'un grand professeur? Non, c'est quoi cette histoire? En quoi c'est une chorma En quoi c'est lié à la sagesse de donner un machal? Et là-bas, une personne explique la chose suivante. Ils disent que de quoi on parle ici? On parle de quelqu'un qui a compris ce qui se passe au fond, qui a compris l'essence de la chose, mais qu'il a en face de lui quelqu'un qui n'a pas compris. Et on dit, c'est qui le vrai Chacham? Le vrai Chacham, c'est celui qui va être capable de prendre n'importe quel concept et de le faire descendre et de l'expliquer, de l'adapter à n'importe qui. Et s'il faut descendre à 3000 niveaux, il le fera. Ça prouve que la personne est vraiment très intelligente et l'a compris très bien. Ça, on le remarque. On voit qu'il y a des fois des choses qu'on a compris. D'accord. Après, quand on va le répéter à quelqu'un qui est peut-être moins intelligent que nous, qui n'a pas les connaissances qu'on a, on s'aperçoit que finalement, on a du mal à l'exprimer. Pourquoi on a du mal à l'exprimer? Ça veut dire qu'en vérité, on ne l'a pas compris à 100%.
Ouais.
Parce que si on le maîtrisait à 100%, normalement quelque chose qu'on maîtrise à 100%, on est capable de l'expliquer dans tous les sens. Il n'y a pas de problème. Donc c'est quoi la grande chorma du roi Salomon? La grande chorma du roi Salomon, c'est que le roi Salomon était capable de descendre à tous les niveaux. Et alors? Alors descendre, c'est facile. C'est que même lorsque tu arrivais au niveau 3000, c'était la même substance qu'il y avait derrière. C'est ça la force.
Ça ne perdait pas
de sa valeur. Sauf que ça prenait une autre forme. Ça prenait une autre forme, une forme plus matérielle. Quelqu'un qui ne comprend pas, par exemple, on dit en chassidut, on dit que quelqu'un qui ne comprend pas qu'est-ce que ça veut dire, quelqu'un qui ne comprend pas la beauté et le fait que, et le coût, que la divinité, c'est bon, on va lui donner un exemple qu'une pomme est bonne. Maintenant, il n'y a pas de rapport, la pomme est bonne, il n'y a pas de rapport avec Hatsilut, il n'y a pas de rapport avec la Gdusha. Tu dis, si, il y a un rapport.
Le goût.
Parce que si la pomme est bonne, d'accord,
la tarte est bonne.
Si la pomme est bonne, c'est parce que c'est descendu du Seder Ishtal Shilut, il y a eu toute une descente qui fait que le fait que la pomme est bonne et que ça c'est bon et que ça c'est pas bon, ça descend du fait qu'en haut ça c'était bon et ça c'était pas bon. Donc, c'est un bon machal. Un bon machal, c'est quand on réussit à donner un exemple, d'accord, qui garde la substance initiale. Et c'est ça ce que Kadosh Baruch Hu a fait. La force d'Akadosh Baruch Hu, lorsqu'on dit qu'Akadosh Baruch Hu avat olam avtanu, lorsqu'on dit qu'Akadosh Baruch Hu il nous aime d'un amour qui est lié à un voile, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu, même si pour nous donner Torah et Mitzvot, même si pour s'occuper de nous, il a dû créer un voile.
Il a dû se rétracter.
Il a dû matérialiser Torah et Mitzvot. Mais c'est pas pour autant que Torah et Mitzvot ont perdu leur substance. Non! Qu'est-ce qu'on a dit? Ava dochekat abasa. L'amour repousse la chair. L'amour rétrécit la chair. Et qu'en vérité, derrière ce côté matériel qu'il y a dans les mitzvot, il y a toute la substance des mitzvot qui se cache, et toute la substance du divin qui se cache. Une substance qui n'est pas accessible par les malachim. Pour qui il a fait tout ça? Parce qu'il aimait son peuple Israël, Bavor Ava Tam Israël. Donc vous voyez bien comment on voit bien comment les deux brachot du Kriyat Shema sont très structurés. On voit clairement comment on nous montre tout d'abord les malachim. On nous montre comment les malachim, quelque part, n'arrivent jamais à atteindre leur but. Et constamment, ils sont en train de dire c'est plus haut, c'est plus haut, c'est plus haut. Après, on nous montre comment Kadosh Baruch Hu nous aime. Et ça veut dire quoi? Kadosh Baruch Hu nous aime. Ça veut dire que Kadosh Baruch Hu va se rétracter pour nous. Il va se rétracter pour que Torah et Mitzvot soient accessibles à nous.
Et pourquoi?
Vezehu Shekatuv. D'accord? Vezehu Shekatuv, Chemla, Gedola, Viter. Et avec ça, bon, je finis encore juste les trois lignes, mais on n'aura pas encore fini à 100% le sujet. Zehu Shekatuv, Chemla, Gedola, Viterra. Toujours dans la deuxième bracha du Kriyat Shema, qu'est-ce qu'on dit? On dit Chemla, Gedola, Viterra. C'est quoi la suite?
Chemla, Gedola, Viterra.
Chemla, Gedola, Viterra.
Viterra.
Chemla, Gedola, Viterra.
C'est des
bourrades. Chamalta, allez nous.
Elle ne répond même pas.
Avinu,
Makhilam.
Non.
Allez,
nous. Sa blague de la Mta Hamalta, allez nous, avinim la Kenu Bavoshimcha Gadol, Bavoratun Shoto. Très bien. Qu'est-ce qu'on dit en cette bracha? On dit. Je lis quelques mots encore. Zé ou chez Katou, Blainara, la bouteille.
On a enlevé tout le spirituel. On a enlevé tout l'esprit de la matière, on l'a fait remonter.
Quand on aime, on compte pas.
Ouais, il a voulu faire 3 heures de cours.
Il comprenait pas. Il comprenait pas l'exemple de la pomme. Alors, il me dit, tu aimes Dieu, c'est comme tu aimes la pomme. Là, ça...
C'est l'aïloula du rabbi précédent.
Il n'avait pas le choix.
On s'est rétracté par rapport à notre clairvoyance.
Oui, oui. De nous et on
de manière
Zé ou chez Katouf Kremla Get de la Vitera, etc. Ça veut dire quoi? Avec ça, on va comprendre le fait que, toujours dans cette deuxième bracha du Kriyat Shema, qu'est-ce qu'on dit? On dit Kremla Get de la Vitera, que Akadosh Baruch Hu, il a eu une pitié grande et particulière envers nous. Quel rapport avec une pitié? Quel rapport à la pitié? D'accord. Pirouche, ça veut dire, d'accord, Yeteral Kirvat Elokim Shebechot Svamal, en quoi la pitié que Kadosh Baruch Hu a envers nous est particulière? Elle est particulière par rapport à ce que Kadosh Baruch Hu a de nos anges. Qu'est-ce qu'on dit après? Uvanu Vacharta Mikolam Velashon. Bon, ça c'est un point que je vais expliquer la semaine prochaine. Mais je veux dire, d'accord. Pardon? Non, il a eu de la pitié en se dévoilant à nous, en nous donnant la possibilité de s'attacher à lui. Ou va nous bacharta Mikolam Velashon. Toujours dans le deuxième bracha du Kriyat Shema, mais ça on développera la semaine prochaine. Qu'est-ce qu'on dit? On dit que Akadosh Baruch Hu nous a choisis parmi les nations. Ça veut dire quoi il nous a choisis? Ou à Goufa Khumri, Akadosh Baruch Hu n'a pas choisi notre Neshama. Il a choisi notre corps. Je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a 3 ans à Shavuot, on avait fait un cours sur ça.
Pas Shavuot,
c'était pas ça. Ouais, je crois que c'est Shavuot.
On en avait dit Shavuot.
Non,
il y a 3 ans.
Ah non, c'était pas ça. Excusez, il était assis là.
Oui, oui.
Moi j'étais là. On avait dit que quand il y a eu la traversée de...
Et j'étais où, moi?
C'est
même la place où j'étais assis.
C'était pas là, ça.
Quand j'étais dans la figure.
Et quand il y a eu la traversée de la mer rouge, même le corps, il a changé.
Bon, peut-être. Mais si je ne me trompe pas, c'est Shavuot.
C'est la mer du jeu. Comment?
C'est pas la mer rouge, c'est la mer du jeu.
Oui,
c'était Shavuot. Il est assis là, et toi, t'étais assis là.
Shavuot, on était là-bas.
Anid me bechumriyuto le gufe umata olam. Kakadosh Baruch Hu a choisi. D'accord. Kakadosh Baruch Hu a choisi. Dans le corps du Ham Israël. La boucha, c'est pour dévoiler la Neshama, pas pour dévoiler le corps. Akadosh Baruch Hu a dévoilé. D'accord. Akadosh Baruch Hu, quand on dit qu'Akadosh Baruch Hu, Banu Bachar Samikolam Velashon, Akadosh Baruch Hu nous a choisi parmi toutes les nations. Ça, on va expliquer la semaine prochaine. C'est-à-dire qu'il nous a choisi parmi toutes les nations. Ça veut dire qu'il nous a, Akadosh Baruch Hu nous a choisi, même notre corps. Où on voit ça? Akadosh Baruch Hu, dans les mitzvot qu'il nous demande, il ne nous demande pas uniquement de faire des mitzvot qui sont liés à notre âme. Il nous demande de faire des mitzvot qui sont liés à notre corps. Ça veut dire que même le corps d'un juif doit être kadosh. C'est pour ça qu'il y a des halachot particulières autour du corps d'un juif. Autour du cimetière, autour de beaucoup... Autour du corps d'un juif, bien qu'on va dire, mais attends, puisqu'il est parti de ce monde, le corps, de toute façon, c'est rien du tout, ce qui compte, c'est un neshama. Non. Parce que, banu bacharta nikolam velashon, Akadosh Baruch Hu a choisi même notre corps. Et alors, ça on verra la semaine prochaine. Donc ça, ce point-là de Vanou Bachata, il faut l'expliquer. Je m'arrête plus la semaine prochaine pour attacher. Mais en tout cas, ce qu'on voit ici, c'est que petit à petit, dans les brachot, avant le Kriyat Shema, Guy, il faudrait que tu réfléchisses encore une semaine supplémentaire. Parce que Guy, ça fait une semaine qu'il réfléchit.
C'est bien.
Il était
temps.
Ce qu'on a vu, qu'on a expliqué ici, c'est qu'on voit comment petit à petit, le problème qu'on a ici, c'est qu'on a compris que le concept qui se cache derrière le Kriyat Shema, c'est quoi le concept derrière le Kriyat Shema? C'est sacrifier son ego pour Akadosh Baruch Hu.
Son ego, c'est l'orgueil.
D'accord. Son ego. Et la question qu'on s'est posée, on s'est dit, mais comment je peux sacrifier mon ego pour Akadosh Baruch Hu?
En comprenant
pas seulement son orgueil.
Comment, Guy?
D'accord. C'est ça l'erreur. Encore une fois, Yacob. C'est pas, encore une fois, je ne parle pas seulement de sacrifier l'orgueil. L'orgueil, c'est une sale forme de l'ego. Mais on peut faire appel à l'ego sans être orgueilleux. Par exemple, quelqu'un qui fait Torah et Mitzvot pour avoir un Gan Eden, pas lié du tout à l'orgueil.
C'est un intérêt.
C'est un intérêt. Ça s'appelle l'ego. L'ego, c'est le jeu, le moi.
Le jeu, le moi, c'est pas pareil.
D'accord. C'est l'ego.
C'est le moi, tu veux dire.
D'accord. Le moi,
on arrive
l'ego.
À s'annuler en comprenant l'amour qu'a
la fierté. Le yesh, ce qu'on appelle le yesh, le metiut. Alors, qu'est-ce qu'on nous demande? On nous dit ici qu'Akadosh Baruch Hu nous demande ici, dans le schéma Israël, il nous demande de faire abstraction de son jeu, comme le rabbi précédent. D'accord. Qui pense à nous du ciel, c'est toujours ça, il ou là. D'accord. Donc, ça veut dire faire abstraction de soi. Comment tu veux que je fasse abstraction de soi? Alors, on dit, c'est pour ça que comment je fais abstraction de soi? on nous prépare à ça dans les brachot qui est avant le schéma. Qu'est-ce qu'on te dit dans les brachot qui est avant le schéma? Dans les brachot qui est avant le schéma, progressivement, on va te montrer comment Akadosh Baruch Hu ne s'est pas occupé des anges. Et que tous les anges vont être là, en train de dire, on comprend pas Akadosh Baruch Hu. Ah, Yaakov va demander à quoi ils servent les anges, il faut venir la semaine prochaine pour ça. D'accord? En tout cas, quoi qu'il en soit, la réalité est là. Akadosh Baruch Hu ne s'occupe pas des anges. D'accord? Ils sont pas là, ça veut dire qu'ils sentent clairement qu'ils sont pas en trop, mais le monde n'est pas là pour eux. C'est pas pour eux qu'on a fait le repas. Ils sont en trop, c'est même pas des serveurs, on travaille pas pour eux. Et progressivement, plus on avance dans les brachot du Kriyat Shema, ça on montrera la semaine prochaine, et plus on voit qu'Akadosh Baruch Hu nous a choisis. Akadosh Baruch Hu nous aime, et il nous a choisis, et après on va parler comment il nous a donné la Torah, comment il a choisi notre corps, etc. Pour nous montrer que, contre toute logique, Akadosh Baruch Hu n'aime pas, enfin, n'a pas eu ce sentiment d'amour envers les Malachim, et il est envers nous. Pourquoi on fait tout ça? On fait tout ça pour pousser l'homme à avoir le sentiment que si Akadosh Baruch Hu a tellement fait abstraction de soi, hein, il est évident que moi, de mon côté, je dois faire abstraction de moi. Ah, a priori, tu vas me dire c'est impossible. Oui, je te réponds, c'est possible. Pourquoi c'est possible? Le roi Salomon nous l'a dit. Kemaï mapanim mapanim ken lev adam la adam. Akadosh Baruch Hu a créé une règle dans la nature. Que quand une personne t'envoie un sentiment, quand une personne envoie un sentiment vers toi, naturellement tu le renvoies, même si ce n'est pas logique. Quand une personne t'embête, naturellement tu as envie de l'embêter. Quand une personne te montre qu'il t'aime, naturellement tu vas lui montrer que tu l'aimes. Même si tu ne sais pas pourquoi. Tu dis mais je l'aime pas, il m'a rien fait, je sais pas ce qu'il me veut.
D'accord.
Naturellement tu vas sentir que tu as envie de l'aimer. Pourquoi? Pourquoi? Comment ça se fait? Parce que c'est une nature que Kadosh Baruch Hu a créée chez l'homme, quand j'envoie un sentiment vers quelqu'un, il me le renvoie. Donc quand tu me poses la question, tu me dis comment c'est possible de faire abstraction de soi, la seule solution pour faire abstraction de soi, c'est si on réfléchit au fait que Akadosh Baruch Hu fait abstraction de soi,
oui, voilà,
pour descendre vers nous.
Donc t'as l'image de lui.
D'accord. Et quand, non, pas seulement j'ai l'image de lui, quand je réfléchis qu'Akadosh Baruch Hu a fait abstraction de soi pour moi, donc naturellement, quand je réfléchis à ça, ça peut prendre du temps, ça peut prendre quelques semaines, quelques années. Mais si je réfléchis sincèrement à ça, qu'Akadosh Baruch Hu a fait abstraction de soi, naturellement, je vais arriver au sentiment que moi aussi je devais faire abstraction de moi. Ah, c'est pas logique. Ah, ça va contre la logique humaine. La logique de la vie même qui dit que... C'est l'instinct de survie. L'instinct de survie qui est lié à l'ego, qui est lié à l'existence. Pourquoi j'ai envie d'exister? Parce que je veux exister. D'accord? C'est quoi exister, Yaakov?
C'est être à l'extérieur comme on est à l'intérieur.
Très bien. Donc j'ai envie d'exister, j'ai envie de vivre. D'accord? Exister. Et qu'est-ce qu'on te dit? On te dit non. Qu'est-ce qu'on te dit? On te dit c'est pas ça. On te dit à Kadosh Baruch Hu, il te dit qu'en vérité, il faut faire abstraction de toi. Comment c'est possible? Même si c'est pas logique. Si on va réfléchir au fait qu'Akadosh Baruch Hu a fait abstraction de soi, naturellement, nous aussi, on va se mettre à faire abstraction à Kadosh Baruch Hu. Alors on n'a pas fini le sujet parce que. On n'a pas encore expliqué à 100% ni comment Akadosh Baruch Hu fait abstraction de soi, et ni comment nous devons faire abstraction à Akadosh Baruch Hu. Et comment on retrouve ça à 100% dans les brachot avant le Kriyat Shema?
Je peux poser une question.
Bien sûr.
Pourquoi dans ces cas-là, Akadosh Baruch Hu a fait dépendre la création de l'homme des anges, faisant l'homme à notre image? Comment on peut comprendre la question que Akadosh Baruch Hu pose aux anges avant de créer l'homme?
C'est eux qui font tourner le monde, c'est les anges.
Akadosh Baruch Hu, c'est écrit que... Oui, la question. Akadosh Baruch Hu, c'est écrit comme ça. C'est écrit que Akadosh Baruch Hu, justement, ça va confirmer ce qu'on vient de dire. Akadosh Baruch Hu, avant de créer le monde, il a demandé, c'est écrit qu'il a demandé aux anges. Quand il leur a demandé, il leur a dit... J'entends M. David. Akadosh Baruch Hu a demandé aux anges, il leur a dit, qu'est-ce que vous pensez si on crée l'homme? Vous leur poser la question. Et qu'est-ce qu'ils ont répondu? Ils ont répondu, Ma Enosh qui disquerait nous. D'accord. D'accord. Qui disquerait nous pour que tu le mentionnes? C'est ça, quand on te dit qu'est-ce que tu penses si j'embauche celui-là, il dit mais qui il est pour que tu le mentionnes même?
C'est du style.
C'est rien du tout. Et qu'est-ce que dit Akadosh Baruch Hu? Akadosh Baruch Hu, le Midrash, il dit, enfin il y a plusieurs versions, mais le Midrash, il dit sur ça, hein, il dit qu'Akadosh Baruch Hu leur a dit, si vous continuez à parler, je vous brûle. Vous n'existez plus.
Donc ils ont un libre arbitre.
Non.
Donc ce n'est pas les objets.
Non, parce que c'est
pas
parce que c'est leur rôle, encore une fois, c'est leur rôle de poser la question.
Je conteste pas.
Il y a une réponse, Tania.
Seconde. C'est pas fini. Donc Akadosh Baruch Hu leur a répondu, si vous continuez un seul instant, je vous brûle. D'accord. Ça, pourquoi je te dis que ça conforte ce qu'on vient d'expliquer ? Parce que ça conforte le fait qu'on te dit que Akadosh Baruch Hu, il est constamment en train de montrer aux anges. D'après ce qu'on a expliqué, on imagine que les anges auxquels il a posé la question, c'est les Sraphim.
Ah.
D'accord ? C'est pas les Ophanim. Parce que les Ophanim, dès le début, ils comprennent pas, ils cherchent pas à comprendre. Là, c'est les gens qui changent de Sraphim. Et quand on leur pose une question, ils disent, bon, d'après nous, il faut faire comme ça. Et Akadosh Baruch Hu dit, non, fais pas comme vous dehors. Alors, mais pourquoi ? Si vous continuez à parler, je vous brûle. Pourquoi ? D'accord ? Pourquoi je me demande ? C'est très dur. Pourquoi je me demande dans ce cas-là ? Ne me demande pas. Ça, c'est les Sraphim. Les Sraphim, c'est-à-dire que Akadosh Baruch Hu leur montre constamment que même si vous croyez, vous comprenez, en vérité, vous ne comprenez pas. Ça, c'est exactement les Sraphim. C'est ça, les Sraphim. Et on voit comment, dans les deux brachos du Kriyat Shema, tout est instrumentalisé pour nous... Pourquoi poser la question ? C'est une autre question, ça, oui. Comptez-la. On voit que dans les brachos du Kriyat Shema, tout est instrumentalisé pour nous rappeler ça. Pour nous rappeler le fait que le Ham Israël est le centre de la création et que Akadosh Baruch Hu a délaissé tout le monde pour nous. Maintenant, tu poses la question, tu dis pourquoi Akadosh Baruch Hu a besoin de leur poser la question ? Je viens de répondre.
Ils sont limités dans leur réflexion.
Je viens de répondre. Ils ne comprennent, ils ne peuvent justement. Pas répondre. Comment on manipule quelqu'un ? Ah, comment
manipuler, ça veut dire quoi ?
Manipule.
Se servir de lui.
On lui dit ce qu'il va entendre.
Manipuler, ça veut dire
quoi ? Manipuler comment... dans le mal, après on va expliquer dans le bien.
Comment faire pour qu'il aille dans notre sens ?
Comment tu manipules quelqu'un ?
On lui fait croire que en lui posant
des questions fermées.
Ah, je vais expliquer ce qu'on dit dans la Torah. Une des grandes techniques de ma... Évidemment, on le dit aussi dans la... On le dit aussi aujourd'hui chez... enfin, dans la science. Une des grandes techniques... Je crois que je l'ai déjà dit. Une des grandes techniques de manipulation, c'est quoi, Yaakov ?
Une des techniques de manipulation, c'est...
Oui, vas-y.
C'est la technique de l'âne. Tu mets une carotte pour qu'il avance.
Pas du tout.
En plus, il le dit avec tellement de certitude. C'est qui, c'est qu'il qui... le maîtrise, le sujet.
C'est qui l'âne ? C'est qui l'âne ?
Tu comprends ça ? Alors,
écoutez bien. Une des grandes techniques de manipulation, c'est de... Je l'ai dit une fois très brièvement, ça je vous le répète maintenant. C'est de faire passer à un homme deux sentiments contradictoires. C'est comme un ordinateur, voilà, toqué dans les ordinateurs. Ouais. Comment on fait pour casser un serveur ? Comment je fais pour ce qu'ils appellent la brute d'attaque ? D'accord ? Comment je fais pour faire tomber un serveur ?
On prend une massue.
D'accord ? Qu'est-ce que tu fais ? Tu lui fais croire qu'il gère la situation, et en même temps, tu lui montres qu'il ne gère pas la situation. Et c'est là qu'il craque. Il ne comprend pas. Il dit, attends, je gère ou je ne gère pas ?
C'est trop personnel ce que tu dis, là.
Une seconde. Non, c'est comme ça que ça marche. Dans un ordinateur. Comment tu rends fou ? Voilà. Alors, une des grandes techniques de